Bon midi, en ce 22 juin, à deux jours de la Saint-Jean-Baptiste, notre fête nationale, où on fête notre nation.
Bravo, Jeff.
Hein? Je savais qu'Anto...
Il me regarde en le disant, tu sais, c'est quand même faire plaisir.
Exactement, t'as tout compris, j'ai dit quand je vais aller chercher la fibre nationaliste d'Antonine Iacarini pour débuter. 418-971-101, vous le savez, c'est le numéro pour nous joindre. L'application BLVD-101, téléchargez ça si vous ne l'avez pas fait. Parce que là, je le sais, vous allez prendre la route, vous allez aller en camping, vous allez partir en voyage, vous allez vous faire un road trip. Bien, la meilleure façon de nous écouter, c'est notre application BLVD-101 sur App Store, Google, Play Store. Juste à dire, Anto, qu'au 418-971-101, on a reçu déjà un texto qui nous dit... Jeff et Antonine, je me soumets à la hiérarchie pour le midi. Bou Antonine qui travaille pour la machine. Ah ah ah! Sans farce, c'est le meilleur show. Oh, c'est fin, yeah.
Ouais, mais c'est semi-fin. J'appellerais ça un compliment, mais c'est correct.
Ah
merci.
Non, c'est fin. Il y a Alex aussi qui nous écrit bon midi. Hey Alex, écris-moi donc comment était ton défi des escaliers en fin de semaine. Alex faisait le défi des escaliers. Tu te prépares pour le marathon de Québec. On jase régulièrement de course à pied ensemble. Bravo, Alex, de te tenir en forme de cette façon-là. Même si on est le 22 juin, il y a beaucoup d'actualités. Beaucoup d'actualités de Québec aujourd'hui. C'est ce qu'on va mettre à l'avant en plan dans l'émission On en jase. On a Frédéric Boisvert, le PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec qui est avec nous. Mais avant, Mathias, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Le gouvernement du Québec qui a dévoilé sa stratégie pour l'avenir de l'audiovisuel québécois. On parle de 610 millions de dollars sur 5 ans qui sera notamment utilisé pour viser un public de jeunes Québécois, avoir une présence accrue aussi des histoires québécoises, notamment dans l'espace numérique et audiovisuel. Alors, on n'a pas nécessairement tout le fin détail comment tout ça va s'orchestrer, mais de ce qu'on comprend, il devrait normalement avoir des sommes qui vont justement pour des créateurs de contenu numérique qui racontent l'histoire québécoise, à voir quel type de créateurs pourront toucher ces sommes. On a des données pour l'inflation qui sont sorties au cours des dernières heures. C'est 3,2% d'inflation, notamment 4,3% pour l'épicerie, 3,1% pour le restaurant. Mais au total, ce qui a augmenté le plus au cours du dernier mois, c'est l'énergie, 22,2% d'augmentation, et l'essence à 33,2%, excusez-moi. C'est là que ça blesse plus côté portefeuille pour les contribuables. Le ministère de l'Éducation a annoncé une nouvelle école primaire dans le secteur de Haute-Saint-Charles. On a approuvé la construction de l'école de 16 classes qui pourra accueillir 368 élèves. Le projet sera donc inscrit au plan québécois des infrastructures 2027-2037. Je rappelle que plusieurs centres de services scolaires de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches demandent beaucoup d'écoles, environ une dizaine d'écoles qui sont demandées par les différents centres de la grande région.
Merci beaucoup, Mathias. Au sport, les Capitales de Québec en ont gagné 2 sur 3 à Ottawa cette fin de semaine. Ils ont maintenant un dossier de 28 victoires et 9 revers. Et là, écoute bien ça, Anto. Cette semaine, mardi, mercredi, jeudi, Ottawa est en ville. Saint-Jean-Baptiste, Ottawa, Québec, au Stade Canac. Vas-y aller?
Non. Hey! Non, mais j'irai pas, mais c'est mais pas par position politique. Là.
Échange de Brady Tkachuk des Sénateurs d'Ottawa contre 3 choix de première ronde et un choix de deuxième ronde aux Panthers de la Floride. Il va rejoindre son frère Matthew. Et à la Coupe du monde de soccer hier, Cape Verde a égalé 2-2 contre l'Uruguay. Le parcours Cendrillon de ce pays de 524 000 habitants se poursuit. Match nul contre l'Espagne, match nul contre Uruguay. Deux équipes classées dans le top 15 mondial, donc nécessairement vont être capables d'atteindre les 16e de finale. C'était dans l'actualité ce matin, Radio-Canada. Le PDG de QSL, Robert Bellil, qui fait une sortie en règle parce que ça y a pris 2 ans et demi de conditions administratives avec le fédéral avant de pouvoir dire « c'est beau, on va y aller avec QSL au port de Québec ». Puis là, il est pogné encore dans des évaluations environnementales. Il ne sait pas combien de temps que ça va prendre. Alors, pour en parler avec nous, on a Frédéric Boisvert, PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Comment ça va, Fred?
Ça va très bien, mon Jeff.
Good. Frédéric, ça n'a pas de sens, ça, ces délais administratifs-là pour un projet économique qu'on veut à Québec. Là, peut-être tous les paliers de gouvernement le veulent là, à l'heure actuelle?
C'est assez, comment je peux dire, un peu pathétique. Donc, moi, je me suis rendu sur les lieux, au port, pour voir le terrain où ça va se situer. Première chose, ça ne touche pas d'aucune façon au fleuve, donc il n'y a pas besoin d'études environnementales pour ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que normalement, l'étude d'impact devait être faite par l'autorité portuaire. Et donc, à cause d'une sortie des gens du littoral, là, je ne me rappelle pas de leur nom exactement, il y a eu une invocation que ce serait le fédéral qui devrait avoir juridiction et qu'il devrait avoir une étude environnementale à bonne et due forme fédérale. Chose auquel la loi, ça n'a aucun rapport. Il n'y avait pas besoin de faire ça, mais pour laver plus blanc-blanc, mm-hmm. le fédéral a accepté de considérer ça avant de renvoyer le dossier à l'autorité portuaire pour l'analyse du dossier. Longue histoire courte, là, on est dans de la procédurite bureaucratique. Écoute, c'est un capharnaüm d'exigences réglementaires qui, à la fin de la journée, mine des projets, atténue de manière marquée le développement économique de Québec et surtout du port. Le vrac, ça, c'est un port du 20e siècle. On doit changer, on doit arriver vers des containers. La containerisation des ports partout dans le monde, là, c'est ça qui se passe actuellement. C'est extrêmement porteur au niveau économique. Et donc, ça ralentisse encore malgré l'annonce du ministre Lightbound. Moi, ce que je souhaite, c'est que le fédéral se débarrasse du dossier rapidement, renvoie ça au port de Québec pour une étude en bonne et due forme. Dans son enceinte, et lui, dans son périmètre territorial qu'il contrôle. Et là, ce qu'on souhaite, c'est littéralement une étude en bonne et due forme qui va nous dire si oui ou non c'est conforme et que si ça l'est, ben qu'on se déguédine parce que là, ça fait, tu l'as bien dit, 2 ans et demi. Puis, il n'y a pas de cachette, là. Si vous allez sur le site de QSL, vous voyez tout le projet, là. Tout est détaillé là, là. Alors, ils ont joué la politique de la carte de la transparence. Mais jusqu'à quel point ça leur sert, je ne sais pas.
Oui, parce que ça peut peut-être venir faire en sorte que ça crée aussi certains questionnements, cette transparence-là, parce qu'il y a des opposants. Ces opposants-là ont dit « Olga Farman, la PDG du port, ne devrait pas justement mener les études environnementales. »
Je t'arrête là, c'est pas elle qui le fait. Là.
Non, tout de suite. Mais devrait pas être celle qui...
Je l'adore, mais c'est pas sa spécialité.
Ouais. Penses quoi de ces opposants-là? T'sais?
Ben écoute, je pense qu'on est dans le vivre ensemble. Je pense qu'on est dans, tu sais, le pas dans ma cour. Parce que, tu sais, le projet, si on le regarde, là, c'est 200 000 conteneurs par année. Ce que ça va faire, c'est qu'il y a une très, très vaste majorité des conteneurs qui s'en vont sur le ferroviaire. Fait qu'on réduit le transport stupide de dire qu'on débarque avec un conteneur à Montréal, il nous renvoie ça par camion à Québec. Non, on le débarque à conteneur tout de suite à Québec. Ça, c'est une première chose. 80 % des conteneurs vont partir par voie ferroviaire. Donc, ça, c'est bon. Ça ne dérangera personne. Ce qui pourrait être un enjeu éventuellement, c'est le 20 % qui va par camionnage. Puis si jamais on y arrive, bien là, évidemment, il y a consultation avec les citoyens. On détermine des heures de circulation. T'sais, il y a des mesures d'atténuation au final. Fait que, bref, il faut juste que ça se passe de quoi. Parce que là, le Québec, ce qu'on vit à Québec, c'est un peu symptomatique de tout ce qui se passe au mm-hmm. Québec. On dirait qu'on n'est plus capable d'accoucher de rien.
Bien, c'est ça. En fait, on regarde ça puis on se dit, est-ce qu'on est capable au Québec d'atterrir avec des grands projets? Est-ce que c'est encore possible? Puis là, tu le disais, c'est pas une question environnementale présentement. Parce qu'on veut pas non plus des projets qui sont botchés puis qu'on fasse pas les choses correctement. Est-ce que tu penses que ces longueurs-là... joue un grand rôle dans le fait qu'on n'est pas capable de faire atterrir les projets? Parce qu'on a l'impression que plus ça traîne, plus ça se salit, là, comme plein de projets.
Ben oui.
Ça fait en sorte que, bien, évidemment, il y a les opposants qui peuvent, trouver toutes sortes de façons de s'opposer. Mais il y a aussi des changements d'acteurs politiques. Parce qu'à un moment donné, pour que toutes les étoiles s'alignent pour des projets, il faut que la classe politique de tous les paliers s'aligne. Donc là, si on niaise, bien là, il y a des momentums qui peuvent se perdre, non?
Oui, bien d'accord. Première chose, c'est que tu as raison. Il va se passer une élection en octobre au niveau de la province. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas que le Québec a juridiction non là-dessus. La question, c'est quand même un facteur important dans l'acceptabilité au niveau des paliers de gouvernement. Deuxième mm-hmm. chose, c'est que je reviens à ton commentaire initial sur la réglementation. En fait, ce qui est en train de tuer l'économie du Québec, c'est la surréglementation. Puis on va se le dire, il y a beaucoup de protectionnisme qui passe par la voie réglementaire au Québec et au Canada. Ça, c'est puis il y a des compagnies qui sont en situation monopolistique qui en abusent parfois également. Il faut le dire. Il faut savoir le dire. Qui ça peut nuire aux plus petites PME. Mais tu sais, au final, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on s'est donné des procédures, un cadre réglementaire qui est trop lourd. En fait, c'est parce que le problème, au final, c'est quoi les résultats de tout ça, là? Tu sais, au final, quand ça niaise 2 ans, 3 ans, 4 ans, ben ce que ça fait, grosso modo, il ne faut pas surprendre ça. Je te l'ai déjà dit, Jeff, plusieurs fois. Si on se compare à la moyenne de l'OCDE, une famille québécoise est 12 000 $ plus pauvre que le reste de l'Occident.
Ouais.
Ben ça, c'est un résultat direct du manque de productivité.
C'est clair.
C'est un résultat direct d'espèce de... Nous autres, on enchaîne un Gulliver qui pourrait être une puissance énergétique incomparable dans le monde, alors que là, on se donne des couches réglementaires qui fait qu'on ne peut plus avancer trois pieds sans se conformer.
Donc, c'est quoi les solutions, là, concrètement? Est-ce que, par exemple, on voit là, récemment, on veut faire plus d'étapes en même temps? Au lieu de, on fait une étape d'un projet de, d'autorisation.
Faire le co-développement, par exemple.
Oui, par exemple, en co-développement, ou de s'assurer qu'il y a plusieurs choses, qui peuvent, des études qui se font en même temps que certaines autres étapes. Ça pourrait être une solution.
Ouais.
Peut-être aussi que chaque palier de gouvernement se demande, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce document, de cette réglementation-là, ou est-ce que je suis juste en train d'essayer d'occuper un espace politique et réglementaire parce que je pourrais le faire, donc je décide de le faire. Mm-hmm. Donc, comment on va faire pour régler cette question-là?
Bien, ce que j'aime avec Québec, c'est que le ministre Samuel Poulin, que j'aime bien, qui a le couteau dans les dents, lui, il avait présenté le projet de loi P11 qui a été adopté, la réglementation 2 pour 1. Donc, si tu ajoutes un règlement, il faut que tu en enlèves deux. Le problème se trouve dans la définition du projet de loi qui est un petit peu moins précis qu'on souhaitait. Le problème, c'est que les ministères qui sont les plus à impact en termes réglementaires sont en partie exclus du projet de loi qui a été adopté. Fait que ça, il y a une limite. Au moins, je salue quand même l'initiative. Il faut quand même le dire puis féliciter la classe politique quand ils font de quoi qu'il y a dans le sens du monde. Mais des péons, ça va en prendre une dizaine puis une dizaine. Parce que si tu regardes les pays du reste de l'Occident, là, tu sais, moi, je reviens toujours au cas de l'Irlande qui a été un miracle. Mais écoute, ils ont renversé une tendance. L'Irlande, c'était la farce de l'Europe. Littéralement, la grande farce de l'Europe. Il n'y a rien qui se passait de bon là-bas. Ça ne marchait pas. Ils ont procédé à un assouplissement du cadre réglementaire majeur. Ils ont passé la Stanley, la balayeuse, ils l'ont passé solide, là. Puis ils ont fait le ménage, puis ils ont baissé leur taux d'imposition. Ce qui fait que maintenant, une grosse compagnie ne débarque pas en Irlande parce qu'il y a un gros chèque. C'est parce que fiscalement, ça fait du sens, qu'il y a un appui du secteur, il y a une prévisibilité.
Il y a un environnement d'affaires qui est attractif maintenant, puis le niveau de productivité a énormément monté. En Irlande, c'est devenu un exemple.
En une génération, ils sont passés du kangre de la productivité au tigre de la productivité puis de la richesse par habitant en Europe. Ça n'a pas de sens, ce qui s'est passé là. Fait que oui, c'est vrai, Antonine, il s'est passé de quoi de majeur là-bas. Moi, je me souhaite un coup à l'irlandaise au Québec où on va réaliser qu'on est en train de se perdre, on est en train de se noyer avec des règlements qui n'ont plus lieu d'être. Puis là, je reviens là-dessus. Là. J'aurais pu comprendre les gens si c'était Laurentia, qui était un projet quand même assez important, avec des fois peut-être des partenaires financiers qu'on aurait pu se poser des questions. Mais bref, au final, on parle même pas de ça. On parle du bébé de Laurentia. C'est une mini-version de Laurentia qui est dans des cadres réglementaires qui on ne demande pas d'aucune façon une approbation fédérale. Là, tu me niaises, là. Es-tu en train de me dire que même ça, la version moins 30, moins 40%, même ça, ça ne va pas? Ben moi, je me pose des questions sur ces gens-là, puis je veux pas les démoniser, mais je veux. Puis je pense qu'ils ont le cœur à bonne place. C'est juste qu'ils réalisent pas l'impact économique de ce qu'ils font. Parce que globalement, là, au niveau du Québec, on est en train de s'appauvrir, puis c'est clair, là, il y a une implosion du secteur manufacturier canadien actuellement par rapport aux tarifs. Là, les gens voient pas ça, là, mais ça plante. Le seul secteur où c'est productif au Québec actuellement, c'est dans le manufacturier intelligent. Là. Il n'y en a pas d'autres.
Mm-hmm.
C'est pas dans le commercial, c'est pas là que ça se passe. Là. Fait qu'est-ce qui va en advenir de nous autres comme nation? Je veux dire, les nations qui s'appauvrissent, là, c'est quoi leur poids politique? Si en plus qu'on a un déclin démographique, on a un déclin économique, où est-ce qu'on s'en va, le Québec, avec ça?
Non, t'as entièrement raison. Et parlant de déclin économique, es-tu déçu de voir qu'on chicane sur le TGV? Je parle un autre grand projet. Non, mais c'est vrai. Puis là, Alto qui se barre, j'ouvre la porte, des modifications de tracé à Mirabel, ajout d'une gare à Kingston, mais t'sais... Moi, de voir un parti comme le Parti québécois prendre position et dire « c'est le train du Canada », ça n'a pas de sens. Là, je veux dire, on parle d'économie là, en tant que tel.
Ouais, moi, je ne tomberai pas dans l'arène politique, mais je pense que...
Je sais que tu ne tomberas pas là.
Je ne suis pas en désaccord avec ce que tu dis, parce que c'est un peu la pensée magique dans tout ça que je trouve fascinante là, en termes de déterminer une part, un montant.
T'sais, parce qu'on a vécu ici à Québec là, de l'assinage sur le tramway pendant 10 ans. Ah, on peut-tu pour le TGV faire différent?
S'il vous plaît.
Puis, on a vu à quel point ça nous a retardé, à quel point les coûts ont augmenté, puis à quel point on est en retard au niveau transport et au niveau économique à cause de ce 10 ans-là de « Hey, on devrait pas le faire ».
Il n'y a personne qui va penser idée que de relier trois pôles économiques que sont Toronto, Québec, Montréal, que ça n'a pas de sens. Il n'y a personne qui va penser que de faire en sorte qu'on réduit les temps de transport au niveau touristique, affaires et autres, que ça ne nous amènera pas ailleurs. Moi, je pense que c'est l'épine dorsale de l'économie canadienne du 21e siècle. Il faut que ça se passe. Là, ça, il n'y a pas le choix. Puis je me dirais que, je peux plus comprendre les oppositions par rapport à ça parce que ça touche des fermes. À la limite, je peux le comprendre.
Ouais.
Ça se débat puis ça se plaque.
Mais quand même, qu'on amène toujours le fameux panneau « Non, pas dans ma cour ». On peut-tu s'asseoir, se parler puis trouver des pistes de solutions? Moi, je trouve qu'on n'est jamais dans le dialogue constructif.
Mais il y a une dérive actuellement que je note depuis au moins une décennie au Québec, c'est pas plus, c'est qu'il y a une politisation des projets d'infrastructure. Écoute, si t'as un projet d'infrastructure, c'est basé sur la donnée, du data, un besoin, de la circulation.
Tellement raison.
Alors que là, des fois, ce que tu vas voir, c'est le politique est en amont d'un projet sur lequel il y a peut-être moins... Écoute, il y a toutes sortes de moutures qu'on a vues, là. Mais il reste que... Moi, je souhaite qu'au Québec, là, ça devienne un peu, comment je peux dire, une proposition indécente que de vouloir faire de la politique sur des projets d'infrastructure. On n'a plus d'argent. Alors, tout ce qui va arriver en termes de projet doit être justifié, costé, avec des dates de livraison claires, des cibles. On n'a plus le luxe de faire de la politique sur des projets d'infrastructure. Ce temps-là est révolu. On est cassé. Il va falloir qu'on fasse de quoi avec ce qui reste.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Frédéric Boisvert, président, directeur général de la Chambre de commerce de Québec. Merci beaucoup pour ton passage en Londres à Boulevard. Si on ne s'en parle pas, je te souhaite un excellent été. Profite-en. Tu as des vacances bientôt?
Ouais, un petit deux semaines plus tard.
Magnifique. Puis au plaisir de se rejaser. Prochainement, on passe au caucus.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Et Anto, faire des projets au Québec.
C'est l'enfer.
Oh my
Mais,
God!
Puis je l'écoutais, quand c'est des questions environnementales. Et tu sais, tantôt, on parlait du train, les terres agricoles. C'est important, puis c'est vrai à un moment donné que, je veux dire, ça prend des voix pour les défendre.
Moi aussi.
Mais quand c'est du niaisage, d'empilade, de réglementation, puis qu'il n'y a aucun objectif positif avec ça, là, c'est juste de la mauvaise gestion, c'est tellement choquant.
Ça. Oui, puis même quand c'est des questions environnementales ou de terres agricoles ou ainsi de suite, moi, je veux maintenant qu'on s'assoie ensemble puis qu'on trouve des pistes de solutions constructives. Peut-être j'en demande trop, mais je suis tanné autant d'un côté de l'autre. Là.
Ben,
oui,
t'sais, économie, quand ça passe
on
chez
scrape.
Vous, oui, mais tu sais, Jeff, quand ça passe chez vous, là, tu sais, mettons le tramway.
Ouais.
Je suis d'accord avec le tramway, j'ai pas de problème. Mais c'est sûr que si c'était mon arbre sur mon terrain...
Je sais.
Tu sais, à un moment donné, il faut quand même prendre en considération... Il faut écouter les gens. Mais c'est pas parce qu'une personne est opposée... Tu sais, l'acceptabilité sociale, c'est pas l'unanimité. C'est pas 100% de gens contents
en
à un moment donné, là, tu sais.
Ouais, puis c'est la fameuse expression, pour faire une omelette, il faut casser des œufs.
Oui, puis honnêtement, quand je m'en viens ici le matin, maintenant que je passe de... Moi, j'habite à Sillery, puis je m'en vais dans le Bourgneuf le matin, puis que faut que je passe à travers le Vietnam, là, c'est-à-dire le boulevard Laurier, présentement. Puis là, le matin, tu sais, je monte la côte du Verger, je tourne sur Saint-Louis, puis je vois que Saint-Louis est tout strippé. Là, je me dis, ah oh, non, ça veut dire qu'en plus de Laurier... Saint-Louis va avoir des surfaceuses qui vont venir asphalter bientôt ou je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ça me prend deux fois le temps. Donc, moi aussi, là, l'omelette, ça me casse les œufs, mais je sais que c'est pour avoir des meilleures routes, plus de mobilité, alors je ravale.
Et voilà, je te comprends. Hey, fête au village à la CAQ ce week-end!
Enfin!
On a annoncé une candidate!
Hey, sérieusement, les attentes étaient comme tellement élevées. C'est tellement élevé comme attente que je me disais, mon Dieu, cette candidate-là a beaucoup de pression.
Oui.
Parce que dans les dernières semaines, qu'est-ce qu'on avait? Des gens qui s'en vont.
Ouais.
Des ministres qui s'en vont. Une trentaine d'élus de la CAQ qui ont annoncé qu'ils quittaient, dont la semaine passée, des ténors.
Ben oui, alors que la date limite
imposée
par le parti était finie. Puis Jean Boulay puis Mathieu Lacombe, ils ont dit, oh, yarbe le parti, oh, yarbe la date limite, on sait que notre gang.
Puis d'ailleurs, j'en profite pour te dire qu'au caucus, il y a quand même des gens qui sont un peu mécontents par rapport à tout ça.
Ben,
parce que c'était supposé d'être une condition pour être dans le conseil des ministres, de s'engager à se représenter pour la prochaine campagne.
T'as entièrement raison. Et d'ailleurs, je trouvais ça quand même assez particulier tout à l'heure que Christine Fréchette et Mathieu Lacombe soient tous au rire pour une annonce sur la culture. Ensemble, main dans la main, un côté de l'autre.
Disons qu'il y a certaines tensions question. Par contre, M. Lacombe et M. Boulay, la semaine passée, se sont fait lancer pas mal de fleurs par leur secteur respectif.
Oui.
Donc, j'ai l'impression que, oui, le caucus n'est pas content puis qu'il y a un peu de mécontentement, mais qu'ils se disent, bon, ben, je pense que si on se chicanait ouvertement avec ces deux-là, probablement que ce ne serait pas très populaire en ce moment.
Non, non, puis de toute façon, il faut arrêter cette chicane-là.
Ils n'ont pas besoin de ça.
Non, ben, ils ont déjà les beaux-pères, là, les Kerr, les Dubé, les Legault.
Ils font toutes des entrevues de fin de mandat.
Les Yuri Chassin, les Maïté Blanchette Vizina qui est rendu dans le PCQ. Ils ont déjà toute cette gang-là pour faire la job sale en public. Ils n'ont pas besoin de la faire entre eux autres.
De plus. Comment tu la trouves, la nouvelle candidate de la CAQ?
Je la trouve déjà très politicienne, pas nécessairement très informée. Je te fais entendre un extrait de notre entrevue ce matin dans Marceau le matin concernant la dette et le déficit.
Il faut toujours, on a eu des très bonnes nouvelles dernièrement. Mmh. Elle a réduit. C'est une bonne surprise.
Ça, c'est le déficit. C'est le déficit qui a réduit, c'est pas la dette du Québec.
Ça, c'est le déficit. D'accord. Oui, bon. Voilà. Vous m'avez attrapé, ça, c'est la dette.
Oui, c'est ça la question. C'était qu'est-ce que vous pensez de la dette du Québec? Hey, on a eu des bonnes nouvelles, ça a diminué, mais ça, c'est le déficit. Ouais. Faire la dette
a continué. J'ai comme une petite douleur, j'ai une douleur au ventre en écoutant ça.
C'est ça. Il me semble que dans l'ABC de « je me présente en politique », c'est quoi une dette, c'est quoi un déficit?
C'est
moi qui est trop exigeant.
Ben, maintenant que Jeff est un bourreau à politicien, on lui a donné ce nom-là.
Oui, apparemment que je pose toujours la question guillotine.
La question qui tue.
Ouais, je vais redire ce que Yannick a dit ce matin. C'est peut-être juste le langage.
La barrière
la langue,
de la langue.
Ouais, c'est pas sa langue première.
Non. Déficit.
Okay, là, je vais aller un peu plus loin. Puis je vais probablement contribuer à excuser un peu Mme Goya, la candidate de la CAQ dans Brome-Missisquoi. Mais on n'a pas une excellente éducation financière au Québec, hein, en passant.
Je le sais.
OK, donc
ça, pour l'améliorer.
La différence entre économie et finance, la différence entre dette et déficit, c'est quoi le PIB? C'est quoi la dette en pourcentage de PIB? Honnêtement, là, c'est très, très mal compris. Puis tu sais, j'ai travaillé en politique pendant une dizaine d'années et j'avais des députés qui ne comprenait pas la différence entre une dépense et un investissement. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne savais pas comment on faisait un budget du Québec.
Continuez d'interagir au 418-971-1021. Il y a un auditeur ou une auditrice qui nous mentionne, c'est un standard, la PM ne connaît pas la dette. Fait que c'est un standard de la CAQ.
C'est l'exemple bien d'en haut.
Là, on avait beaucoup de réponses de politiciennes déjà. Moi, ça me décevait.
C'est une politicienne maintenant?
Je me disais, crime, nouvelle, elle va amener un sang nouveau. Alors, je lui ai posé la question qui tue pour un caquiste.
La question de Jeff.
Allez-vous voter oui ou non s'il y a un référendum? Parce que ça, à la CAQ, là, que c'est difficile. Voici sa réponse.
Ce que je voudrais, c'est qu'il n'y ait pas de référendum.
Et voilà.
C'est la ligne.
Écoutez, pour avoir vécu à l'étranger, pour étant d'origine d'ailleurs, je sais que le Québec a tellement de choses à offrir et à s'offrir en étant stable et en ayant une Christine Fréchette qui nous donne cette stabilité et cette propulsion vers l'avenir. Avoir un référendum maintenant, je préfère... puis j'aimais bien ce que Mme Fréchette a dit, que les autobus restent en gare.
Ben, écoute, je trouve que c'est conforme à ce que les autres caquistes disent. Là, elle avait bien mémorisé la question-réponse.
C'est une question oui ou non. Peux-tu répondre?
Ouais, mais moi, je suis pas d'accord.
Non, comment ça?
Parce que c'est oui ou non s'il y a un référendum. Mais la position de la CAQ, c'est de dire... On a des gens, nous, dans nos rangs, qui voteraient oui qui voteraient non, mais c'est pas ça la question. On veut pas de référendum. Honnêtement, après deux mandats de la CAQ, je pense que ce tabou-là est assez brisé. Là. C'est sûr que c'est moins confortable, mais la question n'est plus autant binaire qu'elle l'a déjà été. Et même, tu sais, je vais aller encore plus dans le granulaire. Moi, je suis souverainiste. Je voterais oui s'il y avait un référendum.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est ma priorité de tous les jours?
Non.
Est-ce que, mettons que tu me dis, ah, ben là, il faudrait réparer des hôpitaux ou faire un référendum? Tu comprends? À un moment donné, c'est plus nuancé. Moi, je vois pas ça comme noir ou blanc. Fait que ça, j'y pardonne.
OK, parfait. Pardonnez.
Puis en même temps,
aussi, je suis souverainiste, je pense.
À certains
demain,
degrés.
Il va être fédéraliste. Par contre.
En revenant de Toronto, de tes vacances à Toronto.
En revenant de tes vacances à Toronto. Et que le Canada va être le meilleur pays au monde.
Mais tu sais, en même temps, on dit, peux-tu répondre? Mais quand un élu.
Ah, ça fait scandale.
Ça fait scandale, puis on fait des titres avec ça pendant une semaine au lieu de se concentrer sur les vrais enjeux.
Tu sais, des fois, la langue de bois, là, C'est aussi nous qui contribuons à la créer. C'est que si à chaque fois que quelqu'un sort un petit peu du rang ou parle clairement, on le plante.
T'as tellement raison là-dessus.
On se regarde dans le miroir.
Ah, je t'approuve à 100%. Bon, un autre candidat qui m'a déçu, c'est Dominique Dumas qui se présente dans Chute de la Chaudière pour le Parti conservateur du Québec. On l'a reçu dans Marceau le matin ce matin vers 8h40. Moi, ce qui m'a déçu de Dominique Dumas, c'est pas tant ses idées puis où il se positionne dans les idées conservatrices, c'est bien correct, c'est sa transparence. C'est au niveau de la transparence. Parce qu'il était dans les médias pendant ça doit faire une dizaine d'années qu'il est dans les médias, puis c'est toujours ça. Hey, pourquoi qu'ils nous disent pas ça? Pourquoi le politicien? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et là, j'ai posé la question à Dominique Dumas. OK, pourquoi si je vais sur ton compte X, il n'y a plus de posts? Qu'est-ce qui s'est passé avec ton compte X? Y a-tu quelqu'un qui est venu justement prendre possession de ton compte
pirater.
Et tout effacer, le pirater? Voici sa réponse. Parfait. Mais es-tu allé trop loin si t'es supprimé? Parce que toi, moi, mon historique, honnêtement, je le supprimerai jamais. Il n'y a pas rien de dérangeant.
Non, je l'ai toujours gardé, puis je ne supprimais pas des tweets parce qu'on pouvait me ramener ça. T'sais, on pouvait me le ramener en tant qu'animateur de radio aussi. Mm-hmm. Mais dans une campagne électorale, là, on va avoir une campagne. T'sais, si je t'ai élu demain matin, tout serait resté là. Puis si on m'en parle, on en parle, c'est tout. Mais dans une campagne électorale où tu as un court laps de temps, où là, ça commence à faire une distraction parce que il y a 8 ans, tu as dit telle affaire, puis là, tu essaies de te rappeler, c'est dans quel contexte, c'est pourquoi j'ai dit ça. Fait, regarde, aussi bien tasser ça, puis si on m'en ramène, regarde, on en jasera, ouais. Pas de problème.
Moi, c'est drôle, j'effacerai jamais mon historique parce que.
Est-ce que ça veut dire que tu assumes ce que tu dis?
Oui, c'est ça, parce que moi, j'assume ce que je dis. Je veux dire, que ça soit un poste plus politique, que ce soit un poste, moi, j'aime le sport plus sportif, ou que ce soit un poste sur ma vie. Parce que je fais beaucoup de pauses sur ma vie, le Good Vibes Only, ils vont toujours rester là, même si je me présente en politique, parce que c'est moi, c'est Jean-François Fortin, j'ai rien à cacher.
Ben c'est ça, puis t'as une approche respectueuse.
Exactement. Ce ça que je crois... Pourrais-tu que ça a fait du Radio X sur la plateforme X, c'est-à-dire boulier un peu?
Ben c'est ça, c'est que l'usage que tu fais de tes médias sociaux, tu récoltes ce que tu sèmes à un moment donné. Il y a une différence entre, tu sais, mettons, je sais pas moi, Halloween 2008, t'avais un déguisement de mauvais goût, t'effaces la photo parce que tu dis « mon Dieu, ça a mal vieilli », OK. Mais quand t'es obligé d'effacer beaucoup de tweets, c'est que d'après moi, puis pas, tu sais, il dit quelque chose que j'ai dit il y a 8 ans, je pense que c'est pas juste il y a 8 ans.
Ben, c'est ça!
Tu sais, d'attaquer beaucoup les gens sur les plateformes de médias sociaux, d'avoir des propos, des fois, qui dépassent un petit peu le respect, ben, quand t'es obligé de les effacer pour aller en politique, ça en dit long sur ton approche.
Ben, exactement. T'es pas nécessairement un joueur d'équipe.
Ben, puis il y a le contenu, puis il y a le contenant. Le contenu, moi, si tu effaces des choses que tu as dit par le passé, là, j'ai vraiment un énorme enjeu parce que je me dis, là, c'est vraiment sur le fond des choses, à moins que tu aies changé d'idée, alors explique-le.
Ben exactement.
Mais après ça, il y a le contenant. Si les gens, peu importe leur positionnement politique, étaient respectueux des autres et dépassaient pas les limites juste pour provoquer, parce qu'il y a beaucoup de provocations aussi là-dedans chez certaines personnes sur les plateformes de médias sociaux.
Bien, c'est une façon d'exister.
Qui est une façon d'exister,
et
mais qu'après devient
boulet. Et on est dans notre chambre d'écho. Mais là, on est dans notre chambre d'écho, on est content, nos petits partisans sont en arrière de nous. Go, 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 solidarité, liberté, on sauve
des
arbres.
T'as des gains à court terme. Mais à long terme, des fois, c'est moins drôle.
Mais à long terme, oups! T418-971-109, vous en pensez quoi? Faites-vous confiance à un politicien qui efface son historique sur ses médias sociaux? Parce que, ouais, j'aurais pas le goût qu'on jase de qu'est-ce que... Moi, ça me donne pas confiance pantoute. Moi, je me dis, ce gars-là est prêt à tout pour être un politicien. J'en veux pas les politiciens
de
moi.
Il a raison quand il dit, c'est parce que ça va créer une distraction, il faut que je m'explique. En campagne électorale, tout va vite.
Oui.
Mais, justement... Si tu te comportes de façon correcte en tout temps, tu n'as pas cette problématique-là de devoir expliquer des tweets que tu as faits à certains moments pour avoir de l'attention à ce moment-là. Parce que c'est vrai, en campagne électorale, là, tu peux faire perdre une journée à ton chef. Ça, c'est la pire affaire, OK? Tu as un candidat quelque part, là, les adversaires politiques vont fouiller les comptes des médias sociaux des autres. Mm-hmm. Puis là, ils vont sortir des affaires, puis là, ton chef est pogné pour répondre à ça. Pendant qu'il répond à ça, ben, il n'est pas capable de dire c'est quoi sa proposition en santé, en éducation, en économie, en tourisme, etc. Puis je pense que c'est ça qu'il essaie d'éviter. Je le comprends. C'est juste que le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est toutes les années où tu as décidé d'attaquer d'autres personnes sur les plateformes de médias sociaux. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Si tu avais débattu de manière respectueuse, tu n'aurais pas ce problème-là.
Peut-être je vais en faire une... T'sais, je vais faire une affirmation fictive, mais supposons que moi, un jour, je me présente pour le PQ. Là, on me posait la question, avez-vous toujours été souverainiste? Non. On peut peut-être me sortir 2-3 pauses sur le fait que j'étais fédéraliste, mais je vais dire, ouais, mais voici ma pensée évoluée, puis voici comment elle évolue, puis
d'attitude. Ouais. Puis, tu sais, de nos jours, tout ce qu'on dit va être dans l'espace public pour toujours, on le sait. Là.
Exactement.
T'sais, nous autres, on est en onde à tous les jours de nos vies. Tu sais, même si tu te présentes en politique dans 10 ans, peut-être des affaires sur lesquelles tu vas changer d'idée.
Ouais.
C'est bien normal, puis moi, je pense que les gens vont s'habituer à ça. On va être moins dans le dogme politique aussi. Les gens sont plus volatiles dans leurs idées. Les partis politiques changent plus rapidement. Mais il faut assumer ce qu'on a déjà dit, mais il faut l'expliquer. Ça se peut que tu aies évolué, là.
Ben oui.
En fait, on évolue, on espère.
Mais on a plusieurs réactions par texto. Est-ce que Farnell, tiens, pour prendre un exemple, a effacé tout? Non, Farnell n'a rien supprimé. Une auditrice qui dit « Ouais, j'ai vraiment pas confiance en un politicien comme ça. » Une autre qui nous ramène Alex Boissonneau. « Hey, c'est pas pire qu'être reconnu coupable de complot à être député. » En effet, j'ai
C'est public.
Oui, puis j'ai pris la parole, moi, lorsqu'Alex Boissonneau s'est présenté. J'ai dit « Il aurait dû amorcer sa candidature avec ça. »
Ouais. «
Hey, vous savez, voici ce qui m'est déjà arrivé dans ma vie. » j'ai fait ça, je le regrette, voici où est-ce que je suis rendu, puis voici pourquoi je considère... Moi là, être politicien, là, je serais sûrement un trop grand livre ouvert, je serais pas bon, mais je serais ça.
Ben, je pense que c'est la voie à adopter, la transparence. Une que j'avais trouvée bonne quand elle a lancé sa carrière politique, c'était Émilie Foster, qui était la députée caquiste dans Charlevoix, dans le premier mandat de la CAQ. Elle, quand elle a fait sa conférence de presse pour s'annoncer, elle a dit, là, je vous le dis tout de suite, voici mes squelettes dans le placard. Bon, c'était pas des gros squelettes dans le placard, là, mais tu sais, c'était genre, j'ai déjà fumé du pot, j'ai une fois... Bon, tu sais, fait que tu sors tout ce que t'as fait de gênant. Puis tu dis, voilà, vous savez tout maintenant. Maintenant, je veux devenir député puis je veux représenter les gens de chez nous. Je pense que c'est une bonne manière de faire.
Je suis convaincu que c'est une bonne manière de faire. Autre chose, on a appris dans l'entrevue que Dominique Dumas avait sa carte du Parti conservateur depuis 2014, mais il travaillait dans les médias. Mmh. Alors, je lui ai dit, quelle est la différence entre toi et ces fameux médias traditionnalistes qui sont décriés sur les ondes de Choix Radio X comme étant toujours du même bord?
Des vendus.
Conservateur.
En effet, mais la différence... Puis... C'est pas une position de station, c'est une position personnelle.
Bon, oui, vas-y.
Tu sais, je veux dire, il y a de ça 8 ans, il y a au moins la moitié de la station qui a voté CAQ. Je pense pas me tromper là-dessus. Mais ça a toujours été le même. La station où je travaillais, on a toujours dit ouvertement pour qui on votait, que ce soit au municipal, au provincial, au fédéral. On s'en est jamais caché. On joue carte sur table. Et les gens savaient que j'étais un conservateur, là. Ça, je l'ai souvent dit. Puis j'ai souvent dit que j'ai voté pour eux autres. En fait, j'ai voté pour deux partis dans ma vie. ADQ, conservateur ou provincial. That's it.
Ça manque de conséquences.
Bien, c'est ça l'affaire. C'est que tu peux pas reprocher aux autres quelque chose que tu fais toi-même.
Exactement.
Mais je vais le défendre un peu.
Vas-y.
Quand c'est dit ouvertement, je pense que c'est mieux que quand on fait semblant d'être neutre.
Je suis full d'accord.
OK? Puis moi, c'est drôle parce que je fais de la chronique politique. Les gens connaissent ma couleur politique.
Mm-hmm.
Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui me connaît. Puis là, des fois, il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent « Voyons, t'es pas neutre. On dirait que tu prends toujours pour le PQ ou pour la CAQ ou que nanana. » Puis là, je suis comme, mais oui, mais c'est public que j'ai travaillé pour le PQ pour la CAQ.
Ben, c'est ça.
C'est, pour moi, c'est, je le dis ouvertement, mais il y a des gens qui pensent que j'essaie de cacher mes convictions politiques, puis que je me prétends neutre. Pas en tout.
Ben non, exactement.
Donc, à quelque part, est-ce que c'est mieux de dire, moi, j'ai ma carte de tel parti, puis voici pour qui je vote?
Clairement.
Je pense que les gens sont à même de se faire leur propre opinion. Par contre, quand une station de radio ou un média en attaque un autre en disant, vous n'êtes pas neutre, ben, il n'y a personne de neutre. On peut tout se le dire. Puis moi, ce que je trouve bien, c'est quand il y a plusieurs opinions qui cohabitent, puis que les gens à la maison peuvent se faire leur propre opinion.
Exactement. Ben là, moi, j'ai un auditeur qui m'a écrit, je pense que c'est vendredi, pour me dire « T'es juste un gauchiste! » Parce que je riais des parachutés du PCQ.
Il doit y avoir des gens qui traitent de redneck aussi. On est toujours trop à gauche, trop à droite pour quelqu'un.
Mais tu sais, moi, je le dis très, 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 très ouvertement, je suis... un petit peu plus à droite au niveau économique parce que je voudrais donc bien qu'on développe nos ressources naturelles, puis qu'on...
qu'on soit capable de faire un projet
qu'on fasse
comme
des projets
QSL.
Qu'on n'y ait pas comme QSL. Mais d'un autre côté, moi, le filet social au Québec, j'y tiens. C'est notre force.
Bien, c'est ça. Puis tu es très cohérent dans tes valeurs, puis tout le monde
Exactement.
Le sait. Mais après ça, tu es capable de jaser sur la même station de radio avec des gens qui ont des opinions qui sont différentes. C'est cette richesse-là. Faut pas chercher la neutralité chez une personne.
Non.
Faut la chercher dans l'équilibre des perspectives qu'on met de l'avant sur nos ondes.
T'as entièrement raison.
Pour ceux qui se demandent quel type de tweet Doom Dumas a peut-être publié, je suis allé faire des recherches, puis j'en ai trouvé un, par exemple, qui aurait pu ressortir dans les médias, par exemple, là. Il a republié, dans le fond, un tweet, je vais vous le dire. Le tweet disait « Un drapeau nazi contre la fierté LGBTQ2+, aux États-Unis. Ça me donne envie de pleurer et voir la police protéger ce groupe, ça me donne envie de vomir. » Donc ça, c'était le tweet de Salomé Corbeau. Dominique Dumas a repartagé ce tweet-là le 9 juin 2019 en disant « Si vous ne croyez pas à la liberté d'expression pour des idées qui peuvent vous dégoûter, vous ne croyez pas à la liberté d'expression. »
C'est ouais. peut-être défendre ce genre de défendre un drapeau tout. Nazi comme ouais. de la liberté d'expression, okay, c'est sûr que ça peut compris. Être délicat.
Mm. Ouais. Oui, c'est vrai que...
C'est peut-être ce genre de tweet-là okay. qui s'est fait.
Ah, parfait.
C'est un bon exemple, Mathieu.
Bon, bien, lecteur de Chute de la Chaudière, vous avez le choix entre Dominique Dumas, Serge Bonin et Martine Biron.
Pour l'instant.
Pour l'instant, je le dis comme ça. Il y a un texto qui est rentré. Dum fait du DM, toujours éviter le vrai sujet, jouer dans sa chambre d'écho et ne pas assumer ses idéologies. Ben, en effet, malheureusement, moi, c'est ce qui me fait décrocher complètement. Je pourrais voter conservateur, puis on va faire un pont avec ceux qui sont populaires et non populaires dans les dans le Journal de Québec. On avait ça aujourd'hui. Mais je peux pas voter pour un gars qui va faire un texto en disant « Ah, la liberté d'expression, le nazisme. » Impossible.
Oui, c'est ça. C'est là que tu débarques du train. Là.
C'est là que je débarque du train. Économiquement, il me parle, le Parti conservateur. Mais idéologiquement,
ben, c'est au niveau de mes valeurs... dans la guerre culturelle. Tout ce qui touche la guerre culturelle, dans les partis conservateurs, c'est pareil, le PCC, là, au palier fédéral. Je pense que les Québécois seraient très ouverts à avoir des gouvernements qui sont un petit peu plus minces au niveau des finances.
Clairement.
Qui interviennent moins, qui sont plus rigoureux. Mais quand on commence à s'en prendre aux droits des gays, puis à défendre des drapeaux nazis, là, le monde décroche au Québec.
Bien, en plein ça, fait que c'est pour ça que, puis tu sais, je le dis très ouvertement, je voterai jamais conservateur. Pis à moins que ça change, là, que ce soit au Québec ou au Canada. Pas parce qu'au
faut
niveau...
jamais dire jamais, Jeff, parce que tu vois l'impact d'un changement de chef
ouais,
sur un parti.
J'ai dit à moins que ça change.
Ah, c'est ça, ben oui.
Oui.
Puis d'ailleurs, Éric Duhaime, moi, je mets quand même une différence entre quelqu'un comme Dominique Dumas ou Éric Duhaime, parce que Éric Duhaime, il passe pas son temps à attaquer les gens sur les médias sociaux, là.
Non, en effet.
Moi, je trouve que depuis qu'il est chef du Parti conservateur, il y a une approche plutôt constructive dans le débat public. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais je trouve qu'il ne s'attaque jamais personnellement aux gens. Il y a eu Alex Boissonneau, évidemment, qui a soulevé des préoccupations, mm-hmm. mais tu les as soulevées toi-même. Je pense que c'était d'intérêt public de se oui. demander, tu sais, en politique, si quelqu'un qui a un passé criminel peut wow, oui. avoir une seconde chance. C'était tout à fait légitime. Mais Éric Duhaime est plutôt constructif dans ses sorties. Hein?
Je suis d'accord.
Je le trouve sur le fond des choses souvent. Je ne suis pas toujours d'accord avec la position, mais dans la manière de faire, je trouve qu'il le fait bien.
Non, je suis d'accord avec toi. Ça nous fait penser aux politiciens les plus détestés, les plus aimés au Québec. Puis je commencerai justement par les plus détestés parce qu'on parle beaucoup des conservateurs. Pierre Poilievre, qui est le politicien le plus détesté, avec une cote par rapport au fait que les gens l'apprécient, les gens ne l'apprécient pas de moins 38.
Exact. Donc, si tu prends sa popularité, moins son impopularité, il est vraiment dans le négatif. Là.
Moins 31 pour Éric Duhaime, moins 14 pour Bernard Drainville, moins 13 pour Maïté Blanchette-Vizina, moins 10 pour Marc Mellor, Geneviève Guilbeault et Sol Zanetti. Là. Donc, tu sais, c'est le top 5, autrement dit. On retrouve trois conservateurs. Moi, ça me surprend pas. Je t'ai dit dernièrement, je trouve que le Québec est plus à gauche au niveau social. Je pense pas me tromper en voyant ces résultats-là.
Mais pourtant, on dit que les politiques de droite, en ce moment, on trouve plus d'écho. T'sais, on parle des infrastructures, on a des déficits, il y a eu du gaspillage. Il y a quand même une ouverture à ça, mais pas au niveau social.
En effet.
Juste avant de continuer, je veux juste vous signaler un breaking news. Il y a présentement une chasse à l'homme qui se déroule dans le quartier Côte-des-Neiges du côté de Montréal. Il y a eu des coups de feu qui ont été entendus par plusieurs témoins. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'au moins un policier a été blessé par balle. Le secteur près de l'autoroute Descarrie à la hauteur de l'avenue de Coutray est bouclé par les policiers. Donc, c'est une vaste opération du service de police de la ville de Montréal et la Sûreté du Québec qui est en assistance sur les lieux également.
On va suivre le tout, évidemment, pour vous. On souhaite qu'arrive rien de grave aux policiers atteints par balle, puis surtout qu'on retrouve l'individu très rapidement et qu'on arrête, justement, cette menace. Pour revenir à ce qu'on parlait dans le caucus avec Antonine Iaccarini, c'est ça, moi, ça me surprend pas parce que à brandir des tweets comme mm-hmm. Mathias nous a lu de Dominique Dumas, je suis convaincu que ça rejoint à peu près personne au Québec. Donc, ça fait en sorte que la cote de popularité descend.
Le négatif puis les attaques, ça te donne des gains à court terme. Ça te donne de l'attention. Quand t'as pas de notoriété, ça ouais. fait jaser. Puis nous, les médias, encore une fois, il faut se regarder dans le miroir. On accroche plus sur le négatif que sur le positif. Ouais,
c'est
bien
clair,
souvent.
C'est clair.
Alors, ça fonctionne. Mais à un moment donné, quand tu deviens une force politique plus établie, puis quand tu t'es fait connaître, puis quand Là, à un moment donné, il faut changer de modus operandi. Mm-hmm. Les gens vont vouloir entendre des propositions. Puis, ils n'aiment pas ça non plus, l'acharnement. Hein. Les électeurs n'aiment pas beaucoup ça quand on est toujours en train d'attaquer les autres, qu'on est dans le personnel. Puis, j'ai l'impression que pour Pierre Poilievre et Éric Duhaime, bien, ça peut faire partie de la problématique. Quand on regarde les chiffres d'Éric Duhaime, on voit qu'il polarise beaucoup.
Oui.
Puis, disons que j'essaie de voir à court, moyen et long terme pour Éric Duhaime qui regarde ces chiffres-là ce matin. Premièrement, on pourrait jaser de la méthodologie parce qu'il peut y avoir des chiffres faussés. T'sais, les gens qui sont moins connus, ils vont avoir l'air d'être plus aimés, mais dans le fond, sont-ils vraiment plus aimés? Ben sont-ils vraiment effet, mieux positionnés? Pas vraiment.
Tu sais, je vais te prendre un exemple. Charles Milliard, 33 % des gens l'aiment, 25 ne l'aiment pas, mais 42 % ne savent pas il est qui.
C'est ça. Donc, est-ce qu'il est vraiment mieux positionné qu'un Éric Duhaime? C'est pas clair. Maintenant, pour Éric Duhaime, là, ce qu'il veut, sa priorité, c'était de devenir une force politique incontournable. Il a réussi. Mm-hmm. Et ce, sans député à l'Assemblée nationale. Bravo. C'était la bonne personne pour le faire. Il le fait. Deuxième étape, c'est de rentrer à l'Assemblée nationale. Avec sa concentration de vote dans la région de Québec, Chaudière-Appalaches, il est capable de le faire. Même s'il n'y a pas besoin que tout le monde l'aime pour faire ça. Mais après, quand il va avoir des députés autour de lui, peut-être des gens qui ont aussi l'étoffe pour devenir chef éventuellement. Là, les conservateurs qui vont avoir un groupe qui est plus grand maintenant vont commencer à se demander, est-ce qu'on a le meilleur chef pour grandir
mais
encore?
C'est ça. Parce qu'ils peuvent pas rester un parti régional toute leur vie. Là.
Ils peuvent s'ils veulent.
Mais pas ça qu'aspire un parti politique.
Mais c'est comme QS. Il va avoir le même débat que pour QS. Est-ce qu'on est juste un lobby à l'intérieur de l'Assemblée nationale qui essaie de tirer vers la droite ou vers la gauche?
QS, on décide de rester un lobby c'est en pensant GND.
Exactement. Ils ont dit non, on ne veut pas être plus efficace, puis on ne veut c'est pas ça. Gagner, on va avoir raison.
Fait que c'est mais un petit parti de militantistes qui va nous élire 4, 5, 6, 7 par élection.
Mais est-ce que Éric Duhaime, qui a réussi son pari à date, va réussir celui de devenir vraiment une option de gouvernement?
Avec ce résultat-là,
avec ces
non.
résultats-là. Et je fais le parallèle avec Bernard Drainville. Pendant la course à la chefferie, tu sais, on en a parlé. À chaque fois qu'il y avait des sondages, je te disais, ce qui est très inquiétant pour Bernard Drainville, c'est le nombre de personnes qui ne l'aiment pas.
Ben oui.
Parce que quand quelqu'un ne t'aime pas, c'est rare qu'il se mette à t'aimer. Ça peut arriver, là, mais tu sais, genre, il y a un attentat terroriste, puis là, t'es un héros, là, tu sais, genre d'affaires qui se peut jamais, qui arrive quasiment jamais.
Comme George W. Bush est devenu.
Exact. Ça se peut. Ça peut arriver des fois. Mais pour M. Drainville, je disais, c'est très difficile parce que les gens ont déjà une opinion. Il y en a qui ont une opinion positive, mais beaucoup ont une opinion déjà négative. Mm-hmm. En politique, la courbe de gens qui t'aiment, elle descend. Et la courbe de gens qui t'aiment pas monte.
En effet.
Alors, ton point de départ est important. Madame Fréchette, on regarde maintenant du côté des gens qui sont aimés. Là. Madame Fréchette, 50% des gens l'aiment, 29% des gens l'aiment pas, puis 21% des gens ne la connaissent pas. Elle a non seulement encore un petit potentiel de croissance, mais si j'étais membre de la CAQ et que j'avais voté à la course à la chefferie, je me dis « ouais ». On a fait le bon choix.
Ben oui, clairement. Mark Carney à 60 % avec seulement 12 % des gens qui ne le connaissent pas. Donc,
il est connu.
Oui, ben c'est ça. Puis là, l'histoire se poursuit pour Mark Carney. L'histoire
puis il peut dormir tranquille. Là. Il est en gouvernement majoritaire en plus.
En plein
Pierre Poilievre est super impopulaire.
C'est ça.
Il m'en aurait.
La vie est belle. Paul Saint-Pierre Plamondon, 44 % des gens l'aiment. 30 % des gens ne l'aiment pas. 25 % des gens sont indifférents, on ne le connaissent pas. Et ça nous amène à Paul Saint-Pierre Plamondon sur les ondes de
Figaro TV
en France, qui a parlé du régime canadien. On l'écoute.
Il ne faut pas comparer l'Union européenne avec le régime canadien, qui est un régime qui découle d'une conquête militaire dans le cadre duquel...
Vous appelez ça un régime canadien?
Ah, c'est un régime. c'est définitivement un régime dans le sens... où le Canada respecte même pas sa constitution.
Je connais le régime iranien, le régime canadien, ça me paraît.
On est encore une démocratie au Canada?
À ma connaissance, oui.
À ma connaissance, oui. Les gens...
Avec ses défauts.
C'est ça. Les gens ont voté aux dernières élections fédérales, ont élu Mark Carney.
Ben, il me semble. En tout cas, les gens... que j'avais voté. Moi,
les gens semblent satisfaits. C'est le politicien le plus populaire au Québec. On a encore une démocratie. OK. On est encore capable de faire changer les choses à coup de manifestations, de contre-pouvoirs. Moi, je trouve en tout cas que c'est sain au Canada, même si j'étais dans la peau d'un souverainiste qui veut me séparer, je reconnaîtrais qu'il y a une démocratie au Canada.
Ben oui, puis on peut la critiquer. Mais là, de dire il n'y a pas de démocratie sous Mark Carney...
C'est un régime.
Là, c'est parce que tu exagères. Puis là, on n'est pas fin parce que honnêtement, le reste de l'entrevue, il y a plein de bouts très intéressants. Ouais. On ne vous les passera pas tous. Je vous invite à aller l'écouter si vous voulez, dans lequel il fait beaucoup de pédagogie. Il l'explique bien. Mais là, il fallait qu'il... En anglais, on dit « jump the shark ». Ça veut dire exagérer. Puis, tu sais, honnêtement, mettons que tu reformules ça, au lieu de dire qu'il n'y a pas de démocratie sous le régime Carney, là, de dire qu'on a des enjeux démocratiques importants dans la Fédération canadienne. Premièrement, il y a une constitution qu'on n'a pas signée, nous, mm-hmm. qui nous empêche de légiférer dans nos champs de compétences. Au Québec, on a des particuliers, des particularités. On veut légiférer sur la laïcité. On a d'ailleurs une vision du vivre ensemble qui ressemble plus à celle de la France que celle l'Angleterre et du Canada. Je pense que les Français auraient très bien compris. On veut légiférer pour protéger notre langue. On se fait mettre des bâtons dans les roues par le gouvernement fédéral qui ne comprend rien à nos particularités et qui nous rentre une constitution dans la gorge qu'on n'a pas signée.
Puis le gouvernement fédéral ne respecte pas toujours les champs de compétences. T'sais, on comprend tout ça, puis on est les premiers à le décrire en nombre. Mais on reste une démocratie.
Ben, c'est une démocratie. Et d'ailleurs, moi, comme souverainiste, ça, j'ai toujours dit que c'était pas facile parce que le Canada, c'est pas le goulag non plus. Là.
Ben non.
T'sais, moi, j'ai plein de récriminations à faire, mais moi, la raison pour laquelle je pense que le Québec devrait être un pays, c'est juste une question de « on est une nation ». Qui devrait mm-hmm. avoir son état. C'est la normalité. Mais là, je me lève pas là, le matin en me disant « Mon Dieu, je souffre encore le grand martyr d'être dans le Canada.
Ben »
Il y a des avantages aussi. T'sais, ça sert à rien, ouais. à un moment donné, de pousser l'exagération. Il y a des arguments vrais, rationnels mm-hmm. et mesurés qui, à mon avis, font la job.
Ouais, dans le grand martyr iranien, tu aurais chanté sans ton hijab puis tu aurais eu 67 coups de fouet.
C'est
ça, un régime.
Pas la même. Puis d'ailleurs, j'en profite pour dire que les données de souveraineté chez l'électorat féminin,
ouais.
toujours plus bas que l'appui de la souveraineté chez les hommes. Et d'ailleurs, une des raisons qui est pointée du doigt, c'est que le Canada, c'est pas un mauvais pays pour le droit des femmes.
En effet.
Et qu'il y a même des femmes qui pensent qu'ils seraient mieux protégées sous le Canada que dans un Québec indépendant pour toutes sortes de raisons. Donc, il faut faire attention à un moment donné aussi, je trouve, de bien définir l'adversaire, mais de manière réaliste et de pointer les bonnes choses. Il y en a plein d'exemples où est-ce que le fédéral nous met des bâtons dans les roues. Pointons ça.
Ben c'est ça.
N'en inventons
pas. Au lieu d'exagérer.
C'est en exagérant toujours comme ça, il vient se décrédibiliser. Il paraît d'un complotiste. D'insinuer que le Canada n'est pas une démocratie. Je suis allé chercher l'indice de démocratie pour le fun. Le Canada, on est 13e. On est devant le Royaume-Uni. On est devant la France. On est devant plein de pays européens. D'aller en Europe et dire, voyons donc, on est dans un régime. Excuse-moi le terme, là. Mais t'as de l'air complotiste.
Oh, t'as l'air d'un
illuberlu. Il n'est pas le seul à utiliser le terme complotiste. Il y a des gens qui m'ont rapporté, qui sont intéressés à voter pour le PQ, qui aimaient bien PSPP et qui disent, là, sa nouvelle affaire sur les frères musulmans qui n'arrêtent pas de faire de l'entrisme partout. Moi, je trouve que c'est un enjeu important. L'entrisme religieux, je pense que ça existe.
Ben oui.
Mais la manière qu'il l'apporte puis qu'il donne l'impression là, que c'est une espèce mm-hmm. de peste là, qu'il y a dans toutes les écoles du Québec puis dans toutes... C'est comme le dosage, le problème. Il est presque sur le bon picot. C'est juste qu'il met comme une tasse de sucre de trop dans son gâteau. Là. Ouais, puis là, ça fait patate.
Exactement.
Mais tu sais,
le gâteau est trop riche. Là, puis là, t'en manges une coupe de bouchée. Puis tu dis, ah, finalement, ce gâteau-là, je le laisse là.
Mais quand même, je reviens à ces chiffres de popularité. 44% des gens qui l'aiment, il est plus populaire que son parti encore.
Oui.
OK. Donc
ça,
récemment,
c'est bon,
je sens beaucoup de gens qui se mettent à douter parce qu'ils l'aimaient beaucoup au début, trouvaient que c'est un vent de fraîcheur, etc. Il y a des petits drapeaux jaunes qui se lèvent pour le chef du PQ. Le TGV, c'est un autre bon exemple. Au lieu de dire, écoutez, il y a des problèmes, il y a trop de terres agricoles qui sont affectées, je pense que ça coûte trop cher, il faut revoir le tracé. Non, on n'en veut pas, c'est le train de l'unité canadienne. Il y a 70% du monde qui le veulent, le TGV.
Mais non, c'est ça.
C'est dose-toi.
Exactement. C'est d'aller chercher les bons combats. Félix qui nous écrit « Hey, moi, Mme Fréchette, je l'aime bien. Elle semble très fine et charismatique, mais malheureusement, elle est rattachée à un parti politique qui est la CAQ et je ne veux pas voter pour ce parti-là. » Mais sais-tu quoi? Si PSPP continue à être dans le complotisme...
Dans les complots, hein. Puis que Charles Millière continue de ne pas nous dire ce qu'il veut faire du Québec.
Exactement. Il y a des votes par défaut qui vont s'en aller là.
Mais d'ailleurs, on jasait de ça tantôt avec Nathan puis Mathias. Est-ce que tu penses que les affiches de la CAQ vont mettre la chef beaucoup de l'avant?
Ben oui.
Le logo de la CAQ, les couleurs?
La chef.
Moi, d'après moi, là, les affiches blanches et turquoises de François Legault, pas sûr que... Tu sais, j'ai l'impression qu'on va essayer de se brander autrement. Là.
C'est clair. Puis, hey, écoute, on va mettre le logo de la CAQ en tout petit
l'affiche.
Ah, oh, oui, oui, parce que là, tu es...
Équipe Christine Fréchette!
Ben oui, les gens sont écœurés de la CAQ, mais malgré l'écœurement de la CAQ, Christine Fréchette est la deuxième politicienne la plus populaire au Québec.
Puis les gens n'ont pas fini de se faire une opinion. Ça aussi, ça va faire en sorte qu'on va avoir un été préélectoral puis une élection enlevante et enlevant.
Ben oui.
Parce qu'il y a encore une grande partie des gens qui ne savent pas pour qui ils vont voter. Moi, je l'entends beaucoup dans les sondages. Mm-hmm. Qui ferait le meilleur premier ministre, là? La deuxième position était occupée par je ne sais pas.
Ben, c'est ça. Puis, Christine Fréchette, je crois, va avoir la bonne stratégie politique de ne pas trop brasser, d'être positive. Puis, au Québec, autant tantôt, je disais, on était plus à gauche socialement, puis ces idées-là nous intéressent. Puis quand les uluberlus de la droite se font aller, on s'éloigne de ça, puis on leur met des décotes à moins 38 puis à moins 31. Ouais. Ben, ça va être la même chose. On veut pas se chicaner. On veut pas d'une campagne électorale où tout le monde va se tirer le pompon. Fait qu'elle, si elle se présente, et je reprends tes paroles, comme l'adulte dans la pièce, à 50 % des gens qui l'aiment, elle a des bonnes chances que ça marche.
Oui, puis c'est beaucoup de luttes à trois, des luttes à quatre dans plein de circonscriptions. Ouais. Moi, je pense qu'il va y avoir des stratégies régionales très, très précises parce que chaque comté, avec quelques points, tu peux aller les chercher.
Je me rends compte, en 30 secondes, on a oublié de parler de quelque chose. On va pas bien pour le PLQ, René Verrette qui dit «
ouais, ben,
j'ai pas
bizarre.
L'énergie à 66 ans, y a-tu pas l'énergie parce que dans le Weber, il était en quatrième? »
Il a pris un gros coup de vieux depuis un mois.
Ouais.
Non, honnêtement, c'est un peu bizarre. Puis c'est sûr que des candidats comme ça qui se retirent, ben, ça laisse place à la spéculation. On se demande, est-ce que c'est à cause des sondages? Est-ce qu'il y a autre chose? On sait pas trop. Mais ça me fait penser qu'il y a la malédiction de Weber. Vous connaissez la malédiction de Weber?
Non, vas-y donc.
Élection partielle 2017, Geneviève Guilbeault, là, c'était pas le plan A hein, de la CAQ.
C'est vrai!
Il y avait un candidat qui s'était retiré.
Oui.
Et le PLQ aussi avait un candidat qui s'était retiré. Donc, il y avait deux plans B qui s'affrontaient. Puis, vous voyez, Geneviève Guilbeault, le plan B, finalement, je veux dire, ça a été une figure de la CAQ importante.
Geneviève
était
avec sa bedaine enceinte en campagne électorale.
Enceinte en plus. Donc, peut-être que les libéraux vont trouver encore une meilleure candidature. Qui sait. Puis, ça va assez bien, les candidatures libérales, faut le dire. Mais c'est vraiment pas le genre de choses que tu veux, des candidats qui se retirent.
Non. Ça, encore quatre candidats présentés dans le coin de l'Estrie là, aujourd'hui. Antonine Yacarini, on se parle demain.
À demain.
Pour le dernier. Non, c'est pas... ça va être le dernier caucus de la
avec
saison
toi.
Avec moi. Oui. Tu vas en faire un jeudi avec Gab Marino et Mathias.
Qui sera mon dernier vraiment de la saison.
Ben oui, parce que moi, j'ai pris un petit congé jeudi, vendredi.
Inacceptable. Ça travaille pas.
Ça n'a pas d'allure.
Ah, je travaille jamais.
Pogne le bing.
Ben voyons, la radio, c'est un loisir. Merci à toi. On fait une courte pause. Mathias, est-ce qu'on a des nouveautés sur ce qui se passe à Montréal avant de faire la pause?
Oui, juste revenir. Là, c'est une chasse à l'homme présentement qu'il y a dans le secteur de Montréal, là, à Côte-des-Neiges, le secteur près d'autoroute Descarry, à la hauteur de l'avenue de Coutray, qui est bouclé présentement par les policiers. On a même mis une alerte d'urgence qui a été émise par la police de Montréal sur les téléphones cellulaires des personnes se trouvant à Montréal, leur demandant d'éviter ce secteur en raison de la présence d'un suspect armé et dangereux. Un policier qui a été blessé par balle sur place. Donc, l'opération du service de police de la ville de Montréal continue.
On revient avec un bloc d'informations et également, je vais vous parler de cette nouveauté à la Ville de Québec pour vous aviser rapidement des travaux. Très, très belle nouveauté. Je me suis inscrit aujourd'hui. Ça a pris même pas deux minutes. On en jase, on est toujours à l'affût de l'actualité. Il est midi 58 minutes. On va avoir dans quelques instants Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ, qui va nous parler de cette fusillade qui s'est passée à Montréal. Là, on nous dit dernière heure, un suspect aurait été abattu.
Oh, OK.
Donc, on suit ça. C'est une fusillade qui s'est passée dans quel quartier, non, Mathias?
C'est dans Côte-des-Neiges, du côté de Montréal. En fait, c'est une information qu'on vient d'avoir. Un suspect qui a été abattu par des policiers, selon l'information. Pour vous refaire l'histoire, en gros, c'est il y a de ça quelques minutes à peine. Vers midi et demi, on nous informait qu'un policier avait été blessé par balle dans le secteur près d'autoroute Descarry. Ça avait été bouclé par les policiers à la hauteur de l'avenue de Coutray. Par la suite, on avait mis une alerte d'urgence partout à Montréal sur les téléphones cellulaires pour informer d'éviter le secteur. Le ministre de la Sécurité intérieure, Yann Lafrenière, qui avait également pris la parole pour inviter les gens à demeurer à l'intérieur et éviter le secteur. L'autoroute Descarry avait été fermée dans les deux directions. Dans les deux directions entre les échangeurs Turcot et Descarry, justement pour cette fameuse chasse à l'homme-là. Et finalement, au cours, ça vient tout juste de rentrer, un suspect qui a qui serait abattu. En fait, qui a été abattu par des policiers? Est-ce qu'il était seul? Selon les informations qu'on a, c'est ce qu'il semble croire, ce qui semble être à notre disposition. Donc, la chasse à l'homme qui aurait potentiellement pris fin au cours des dernières minutes.
Alors, c'est ça l'émission d'En jase. On est toujours à l'affût pour vous de l'actualité. C'est avec Jeff Fortin et Mathias Turcotte. Je vais prendre un petit congé, moi, jeudi, vendredi. Pascal CV sera de retour avec moi pour les deux prochaines semaines par la suite, c'est-à-dire les semaines du 29 juin et du 3 juillet. Mathias, en rafale, avant qu'on passe à Roger Ferland.
Le gouvernement du Québec a dévoilé sa stratégie pour l'avenir de l'audiovisuel québécois. C'est 610 millions sur 5 ans qui sera déployé, notamment pour attirer un jeune public et avoir une présence accrue des histoires québécoises dans l'espace numérique et audiovisuel. Des matchs de la Coupe du monde de soccer seront présentés sur un écran géant au Parc de la Francophonie. Et ce, avant le début des concerts du Festival d'été de Québec. C'est ce qui nous a été annoncé. Un nouvel espace appelé de pub sera ouvert dès 14h30 pour les détenteurs de laissez-passer du Festival d'été de Québec au Parc de la Francophonie. Les écrans qui présenteront les matchs de la Coupe du monde basculeront ensuite au concert lorsque les concerts débuteront. Ça va être fantastique de ce côté-là. Et des entreprises et coopératives ambulancières demandent au tribunal administratif du travail d'intervenir. C'est ce soir que les paramédics devraient commencer leur nouveau moyen de pression, celui de refuser des heures supplémentaires partout au Québec. C'est justement plusieurs entreprises et coopératives qui vont devant le tribunal administratif du travail en disant que ce moyen de pression-là contrevient à la décision du tribunal concernant les services essentiels.
Merci beaucoup, Mathias. On va de ce pas rejoindre Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ, concernant cette fusillade qu'il vient d'avoir à Côte-des-Neiges, quartier de Montréal. Roger, comment vas-tu? Tu viens d'être appelé par plein de gens, j'imagine?
Oui, effectivement. Là, j'ai interrompu mes petits travaux que j'étais en train de faire. J'ai pris connaissance de ce qui se passait.
Exactement.
C'est préoccupant pour tout le monde. Hein?
Ben oui.
Préoccupant pour tout le monde.
Là, Roger, le suspect a été abattu, un policier qui a été blessé. On souhaite que ça se passe bien pour l'état de santé de ce policier-là. Et on avait PO, justement, qui nous écrivait lorsqu'on a fait la nouvelle en disant « Hey, pensez-vous que les policiers vont être capables de l'arrêter sans le tuer, sans l'abattre? Comment ça fonctionne dans ce type d'événement-là, justement? Jusqu'où on est prêt à aller sans tirer sur l'individu pour l'arrêter? C'est quoi les procédures?
En fait, c'est une question d'opportunité. Lorsque tu fais face à la menace, ton objectif, c'est de la neutraliser. Si le tireur actif, tu vas t'identifier comme policier, tu vas lui crier que tu es policier, mais dépendamment de l'action qu'il va poser, la marge de manœuvre devient très mince. Il risque s'il pointe les policiers ou qu'il fait feu, de tirer les policiers. Puis on sait déjà son intention. S'il a fait feu sur des gens, à ce moment-là, la marge d'erreur devient encore plus diminuée. Là, ou la marge, je parle d'erreur, mais plutôt de manœuvre devient diminuée. Mm-hmm. Tu ne veux pas que la personne prenne ta vie. Alors, c'est des moments où ton objectif n'est pas de tuer, mais de neutraliser la menace et de faire ce qu'il faut pour la neutraliser.
Oui, justement, le suspect qui a été abattu au cours des dernières minutes, à partir du moment où il a lancé son coup de fusil sur le policier, son sort était un peu ficelé, là, de ce que je comprends.
Pas nécessairement, Mathias. Parce que si au moment où les policiers l'interpellent, le type, par exemple, il tirait son arme par terre puis qu'il se coucherait au sol, c'est pas vrai, les policiers ne le tireraient pas. Puis c'est là-dessus que les policiers sont formés, à savoir, tu es là pour neutraliser la menace. À partir du moment où la menace, tu as les signes objectifs que tu n'es plus en danger, tu n'es pas justifié de faire feu. Puis ça, c'est la problématique en ce moment qu'on vit. Alors, il ne faut pas penser qu'on est là pour se faire vengeance. C'est sûr, par contre, que, ramenez-moi dans la réalité, là, l'aspect émotif est très grand de ces policiers-là dans ce moment-là. Alors, ton niveau de réaction, la perception que tu as devient très vite, tu peux plus faire feu que ne pas. Mais ça demande beaucoup de calme et de pratique et de coordination pour le faire.
Et là, Roger, c'est le Bureau des enquêtes indépendants qui va prendre justement le dossier en main, compte tenu que mort d'homme et qu'il y a eu coup de feu, autant du côté des policiers que de l'individu?
Oui, rapidement, en fait. En fait, dès que la scène est sécurisée, dès que le périmètre est sécur, et pour les policiers, mais surtout pour le public, Là, à ce moment-là, ils ont déjà contacté le BEI, est-ce qu'on comprend maintenant? Là? C'est le BEI qui va prendre en charge. Mais le BEI travaille, par contre, avec beaucoup d'informations qui proviennent des policiers terrain. Alors, il faut comprendre que l'identité judiciaire, ça va être celle du SPVM, possiblement, qui va intervenir. Est-ce qu'on va demander peut-être à celle de la Sûreté d'intervenir à la place par souci de transparence? Parce qu'on sait qu'en ce moment, on n'a aucune idée de qui est la personne qui a été abattue, c'est qui était le tireur actif. Mais la situation, la tension à Montréal ces dernières journées doit sûrement peser dans la balance un petit peu. Mais ils vont collaborer avec des policiers terrain, puis après ça, c'est le BEI qui devient ceux qui commandent les actions policières.
Comment on va transmettre l'information au public? Là, autant moi, je m'attends à un point de presse qu'on dise hey, « voici ce qui est arrivé », qu'on nous dise en gros ce qui est arrivé, puis quelle est la résultante. Je me trompe-tu?
Non, tu ne te trompes pas. Rapidement, là, je sais qu'au Québec, on n'est pas fort là-dessus beaucoup pour donner de l'information rapidement, mais c'est des moments où ce que le public a besoin de savoir, surtout la forte densité de population qu'il y a dans ce coin-là à Montréal, puis même tout le monde est un peu sur les dents un petit peu de surveiller ça. Ils ont intérêt à en donner rapidement. Je m'interrogeais tantôt pourquoi est-ce qu'il n'y en avait pas donné avant, par contre, ça a pris quand même quelques bonnes minutes avant de le faire, mais il y a toujours l'aspect, dépendamment de l'information qu'ils possédaient, là, tu as à mettre en évidence, est-ce que si tu informes le grand public, tu informes aussi le tireur, là, à ce moment-là, tu ne veux pas faire ça.
D'accord.
Alors, c'est là qu'il y a des enjeux. Fait que c'est pour ça qu'ils ont utilisé une alerte de type Amber ou Silver d'aviser tous les cellulaires dans ce secteur-là. Rester barricadé parce que tireur actif, ça veut dire arrête de te mettre en mouvement parce que le tireur actif va souvent essayer de tirer quelqu'un comme il tire des pigeons. Là,
Fait que
faut que ça bouge en avant de lui. Alors, c'est pour ça que tu te caches... Tu fuis si tu es capable, tu te caches sinon. Puis si tu es confronté avec, ben, selon tes capacités, c'est de combattre. Mais on s'entend, ce n'est pas la solution pantoute pour la majorité des citoyens de le faire dans de pareilles circonstances.
À partir de maintenant, là, la situation, un suspect a été abattu. Est-ce qu'on peut prendre en compte que la situation est sécurisée à partir de ce moment-là ou pas nécessairement?
Pas tout à fait, Mathias. Je t'explique. Il y a toujours un principe qu'on a en termes policiers, c'est le 1+1. Là, vois-tu, il a arrêté cette personne-là. Il faut qu'il s'assure qu'il n'y en a pas un deuxième dans l'environnement qui est là. Est-ce qu'il était tout seul? Est-ce que tout fit pour que ça soit lui? Par la suite, ils vont essayer d'identifier le mobile parce qu'il peut y avoir encore là une suite à cela qui peut se dérouler. Puis, il y a toute l'étape de l'enquête après ça. Qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là? C'est qui, ce gars-là, le profil du suspect? À partir du profil, on va peut-être en savoir beaucoup plus. Mais je pense que dès que les policiers en auront assez, il faudrait qu'ils rassurent le public en ce moment pour en donner. Fait que il y a des étapes importantes. Fait que quand tu es certain que ton périmètre est garanti, relaisse libre accès aux gens à ce moment-là, mais enquête pour savoir le profil de ce gars-là. Il sort de où? Quelle recherche il a faite avant ou après ses actions? Y avait-tu des cellulaires portables, les amis, ses relations, les banques de données? Là, tu tombes dans tout le volet enquête de façon extrêmement importante.
En terminant, Roger Ferland, l'autoroute Descarrés est toujours fermée à Montréal. Fait que c'est sûr que ça amène des problèmes de circulation, des problèmes au niveau des gens. Ça va prendre combien de temps, justement, analyser cette scène de crime-là? T'sais, on est habitué d'un film à voir ça en temps accéléré. Ça prend un petit 2 heures, 2 heures et demie, puis c'est fait. Mais dans les faits, est-ce qu'on peut être en analyse de la scène de crime, compte tenu qu'il doit avoir plusieurs places pendant une journée, 2 jours, 3 jours?
C'est beaucoup que tu me mets là de 2-3 journées. Je te parlerai plutôt en termes d'heures, dans les circonstances, mais ils vont essayer d'y aller en fonction du point central du lieu où ça s'est déroulé et versus des périmètres à côté. Fait que dès qu'ils pourront libérer des périmètres pour libérer l'accès en périphérie, ils vont le faire. Mais là, vois-tu, ils ont très vite bloqué Descarrés en demandant à la Sûreté du Québec de le faire parce que c'est eux qui sont responsables de Descarrés métropolitain. Là. Les grands boulevards, c'est eux qui les ont, les autoroutes à Montréal. Alors, ils ont sûrement pris des ententes. C'est parce qu'ils devaient chercher des traces, des indices de ces gens-là ou des gens en fuite, peut-être, pour être capables de le faire. Puis là, à ce moment-là, de localiser cette personne-là ou d'autres. Mais c'est sûr qu'il y en a pour quelques heures, j'ai envie de dire. Je ne parlerai pas en termes de journée. Peut-être en termes de journée dans la bâtisse, dépendamment de ce qui s'est passé.
Oui.
Mais sur le périmètre extérieur, non, ça va être plus rapide que ça.
Ça vient tout juste de rentrer au Journal de Montréal, des informations, des témoignages de personnes qui étaient sur les lieux. Il y a un témoin en particulier qui dit avoir entendu une trentaine de coups de feu. Roger, une trentaine de coups de feu, pour nous qui est à l'extérieur de ce milieu-là, ça semble beaucoup de coups de feu, me semble.
C'est C'est beaucoup de coups de feu. C'est, j'avais entendu quelque chose de similaire tantôt à, du côté de LLCN. J'ai l'impression que c'est une arme semi-automatique ou automatique que la personne avait dans les circonstances parce que c'est de la façon que les gens l'ont exprimé. Vois-tu, bon, on apprend, c'est ça, justement, qu'un policier de Montréal est décédé.
Oui, c'est ça. Donc, ça serait nécessairement celui qui avait été atteint, j'imagine.
Peut-être, vois-tu. Puis, est-ce que le policier a eu le temps de riposter? Nos armes à nous ne sont pas automatiques. Là. Mmh. Ils sont semi-automatiques. Tu es obligé de faire
d'appuyer sur la gâchette.
À toutes les fois pour l'avoir. Là, t'sais. Ça fait qu'on n'est pas capable de tirer en rafale, nous autres, de cette façon-là. À moins qu'il y avait déjà une opération policière en cours, ce que l'on ne sait pas. Mais il n'y a rien qui dit ça en ce moment. Là, t'sais. Parce que quand on est en opération policière, on a peut-être des armes puissante avec nous à ce moment-là aussi en place. Mais dans les circonstances, c'est beaucoup de coups de feu, effectivement, Mathias. Puis je pense que la personne était équipée d'une arme semi-automatique automatique pour le faire.
Exactement. Donc, bref, Roger, on va continuer à suivre ça. Je te le dis tout de suite, on va sûrement se parler demain matin dans Marceau le matin, si jamais tu veux réserver une petite plage horaire, parce qu'il va y avoir des développements en cours de journée. Oui. T'es juste là dans les 10 minutes qu'on vient de se parler. Bien là, on a appris 30 coups de feu, on a appris le décès du policier. Oui. Alors, ça va nécessairement continuer à débouler de cette façon-là. Bref, Roger, c'est une tragédie ce qui vient de se passer à Montréal avec un policier.
Ah oui, c'est une tragédie, puis vois-tu... Tu sais, pour répondre un peu tantôt à Mathias, à quel point ça devient complexe, là ça veut dire beaucoup plus qu'une scène de crime. Mm-hmm. Ça veut dire, tu as un périmètre en haut, tu as un périmètre en bas, tu as les coups de feu qui ont été tirés sur la rue, il y a d'autres gens blessés, tu sais, ça vient d'impliquer beaucoup de choses, fait que peut-être qu'on a pour quelques heures, secteur Côte-des-Neiges, à avoir effectivement une congestion.
Roger Ferland, merci beaucoup de ta disponibilité très rapide et on se reparle demain matin, c'est certain, avec les développements qu'il va y avoir sur cette fusillade-là, cette tragédie à Montréal où un suspect a été abattu et un policier du SPVM qui a été tué par balle, qui a perdu la vie. Nos sympathies à la famille du policier. Merci, Roger.
Merci, Bonnie. À demain, bye-bye.
À demain. Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ, on va l'entendre également demain matin dans Marceau le matin et on va suivre le tout sur nos ondes de boulevard 102.1. Cette fusillade à Montréal, je le rappelle, où un policier du SPVM a malheureusement perdu la vie. Le suspect est maintenant abattu. Circulation dans la région de Québec, Mathias?
Oui, 20 direction ouest, c'est difficile. Depuis le début des travaux sur la 20, puis ça continue de l'être. Là, c'est entre Taniata et Chemin des Îles, présentement, que c'est au rouge. Également, Charest, direction est, c'est à hauteur de Henri IV, présentement, qui a un léger ralentissement dans le secteur. Shannon, route de la Bravoure en direction nord et même en direction sud, là, pour sortir et accéder à la base militaire. C'est là qu'il y a le gros ralentissement en ce moment. C'est du pare-choc à pare-choc. Et petit ralentissement sur Laurentien, direction sud, pour accéder à la capitale. Il y a quoi que ce soit d'autre, ça se passe au 418-971-1021 par texto.
Après la pause, on parle avec Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine. Vrai ou faux, les États-Unis et l'Iran ont enfin des bases solides pour régler le conflit. Et on va parler de la démission du premier ministre britannique, Keir Starmer. Restez des nôtres, c'est ce qui s'en vient à l'émission dans Jazz.
Tente provenant des quatre coins du monde. Poursuivez l'aventure en pleine jungle avec notre parcours de mini-golf unique et amusez-vous dans notre module de jeu géant ainsi que notre labyrinthe de miroirs. Une sortie familiale de rêve. Visitez bfly.ca pour réserver bfly.ca.
Besoin d'un VUS prêt pour toutes vos aventures? Découvrez le Ford Bronco Sport 2026 chez Desjardins Auto Collection.
Avec sa traction intégrale de série, ses technologies Ford Copilot 360 et son grand écran de 13 pouces, il est conçu pour vous suivre partout.
Et en ce moment, louez-le à seulement 104 $ par semaine avec 0 $ d'acompte.
Oz, à Boulevard 102.1.
Boulevard 102.1.
13h18, vous venez de vous joindre à nous à l'émission Dans Jase. La grosse nouvelle, c'est cette fusillade présentement dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Ce qui est assuré, un policier du SPVM, malheureusement, qui a perdu la vie, il a été tué par balle. Un suspect qui a été abattu. On suit ça en direct pour vous. Et là, Mathias, on parle de peut-être un deuxième suspect qui aurait été abattu. Donc, il y aurait eu plus d'un tireur.
Oui, il y aurait eu deux tireurs, selon certaines rumeurs, et le deuxième tireur qui aurait été abattu aussi. Des policiers qui sont très actifs autour des différents immeubles dans le secteur, justement, dans le secteur à la hauteur de l'avenue de Coutray, sur l'autoroute Descaries. On se promène entre les différents immeubles.
Le groupe tactique vient d'arriver.
Le groupe tactique d'intervention, le GTI, vient tout juste d'arriver sur place. Donc, un deuxième suspect qui aurait été abattu, on n'a pas encore la confirmation. On chercherait présentement à savoir s'il y avait un troisième suspect qui serait sur place. Sûreté du Québec qui est sur place également. L'autoroute Descaries qui est fermée présentement, les deux directions entre les échangeurs Turcot et Descaries. Et tous les habitants du secteur ont été invités à rester confinés chez eux, à ne pas sortir dans le secteur, étant donné la situation qui a dégénéré au cours des dernières minutes.
Merci beaucoup, Mathias. Et tu vas continuer d'être sur le beat pour nous, pour qu'on regarde le tout. Puis s'il le faut, d'ici la fin de l'émission, on retourne revoir le Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ. On va de ce pas rejoindre Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine et producteur des capsules La Liberté en clair sur les médias sociaux. Luc, comment vas-tu?
Ça va particulièrement bien égoïstement, mais je pense comme tout le monde parce qu'il se passe dans la Côte des Neiges. Et encore une fois, c'est pas toujours facile le travail de policiers. Ils sont ouverts à la critique, mais qu'est-ce que leur travail est important très dangereux, puis on le constate aujourd'hui.
Non, vraiment. Puis honnêtement, tu es chroniqueur en politique américaine. On a toujours l'impression, quand il y a ce type de fusillade-là aux États-Unis, que c'est loin de chez nous puis que ça ne peut pas nous arriver. Mais la violence, ça ne s'arrête pas aux frontières, malheureusement. Puis c'est ce qu'on voit. Moi, pour de vrai, ça m'ébranle énormément, tu sais, de savoir qu'un policier est tué, qu'il y aurait possiblement deux suspects armés qui ont ouvert le feu. Ça amène tellement de questionnements.
On est moins familier avec cette problématique-là. Je pense que la violence en général, le crime, le recours aux armes à feu, c'est une thématique donc souvent près de nous avec laquelle on est moins familier. On est plus habitué de commenter ça à l'extérieur. Mais comme n'importe quel thème, quand ça frappe aussi près de nous, quand ça frappe au sein des communautés, on constate à quel point c'est brutal. Puis essayons d'imaginer les gens qui ont reçu cette alerte. Je pense que c'est une alerte ouverte, mais disant... Vous bougez pas, parce que là, on le mentionnait tout à l'heure, c'est vous devenez une cible dès que vous bougez. Ces gens-là frappent ce qui bouge ou tirent sur ce qui bouge. Donc non, c'est le genre de situation, je n'aime pas commenter ça aux États-Unis, mais c'est beaucoup plus confortable à commenter, si on peut s'exprimer comme ça, que quand ça survient chez nous.
Ah, vraiment? Puis là, les gens qui étaient dans les immeubles d'appartements, là, qui étaient justement sur les lieux, qui fait en sorte là, que ça devient tellement terrorisant pour eux. Nouvelle de dernière minute, justement, développement?
La rumeur qui courrait présentement, c'est que ça aurait été une stratégie de guet-apens pour amener des policiers sur les lieux pour pouvoir leur tirer dessus. C'est ce qui court présentement. On n'a pas la confirmation, on n'a pas plus d'informations, mais la théorie principale qui court chez des policiers, ça aurait été que c'est un guet-apens volontiers pour faire déplacer des policiers sur les lieux pour par la suite ouvrir le feu.
Hey, violence directement envers les forces de l'ordre. On parle énormément, justement, dans les médias, Luc, de ces policiers au niveau de Montréal-Nord, les accusations de racisme. Donc, on va suivre les développements attentivement parce que, veut pas, ça va peut-être être une continuité de cette histoire-là.
Et peut-être, mais c'est bien personnel, ça ne vous oblige en rien, mais un appel au calme pour tout le monde. Quand j'ai vu ce qui se passait à Montréal-Nord, mon premier réflexe a été, quelle progression au sein des forces de police, parce que ce sont des policiers qui en ont dénoncé d'autres. Sinon, hélas, ça s'est enflammé très vite et on est allé bien au-delà de ça pour lancer des accusations, porter des jugements. Il y a une enquête en cours, puis vous le voyez aussi aujourd'hui. C'est un travail où on met notre vie en jeu et malheureusement, il y a au moins un officier qui est décédé dans le cadre de son travail, qui est justement de nous protéger. Donc, petit appel au calme, puis attendons le développement, attendons les faits avant d'émettre souvent des opinions gratuites sur les réseaux sociaux.
Ah, vraiment? Donc, l'enquête va poursuivre son cours. On le rappelle, c'est le Bureau des enquêtes indépendants qui va être en charge. Va falloir rassurer la population rapidement. Donc, sur les ondes de Boulevard 102, on va continuer de vous informer. Puis Mathias, de toute façon, est sur le beat s'il y a des développements. Luc, États-Unis, Iran, J.D. Vance... a dit ce matin qu'on était solide dans une entente. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux selon toi?
C'est intéressant, tiens, juste pour être certain.
Ah, c'est bon ça!
Non, je pense qu'il y a de réels pourparlers, mais les écueils demeurent. Donc, il y a bien sûr la situation aux États-Unis quand on observe ce que fait J.D. Vance. Et en passant, J.D. Vance, il joue gros. Là, il est envoyé, lui, comme responsable de ces négociations. N'oubliez pas que J.D. Vance, ce n'est pas juste le vice-président. C'est un des deux dauphins présumés de Donald Trump pour la prochaine présidentielle. Donc, lui joue gros, puis bien entendu, son pays, la région, puis même nous, finalement, on joue gros. Il faut garder à l'œil qu'il y a des critiques aussi aux États-Unis. Il y a actuellement une espèce de fronde républicaine au Sénat pour dire « Cette entente-là, nous, on pense que ça ne tiendra pas, que ce n'est pas solide et nous n'en voulons pas. » Et on est très inquiet des avoirs ou des milliards qui ont été débloqués, dégelés, sans qu'il y ait eu d'engagement sur la gestion du nucléaire. Parce qu'on parle souvent, avec raison, du détroit qui est bloqué, mais le nucléaire est le risque le plus important pour lequel les Américains sont intervenus en Iran. Donc, il y a un signe de bonne foi, en tout cas, du côté de J.D. Vance. Il dit les bonnes choses, les bons mots, appuie les bonnes décisions. Retenez que ça demeure particulièrement périlleux et qu'encore une fois, il y a deux joueurs qui, eux, ne semblent pas collaborer à ce que l'Iran souhaite ou à ce que les États-Unis souhaitent. Le Hezbollah par l'intermédiaire du Liban, bien sûr Israël de l'autre.
Oui, exactement. Est-ce que ça va être possible de contenir Benjamin Netanyahou? Parce que je regardais en fin de semaine, sondage en Israël, les gens disent l'Iran gagne la guerre, faut continuer à anéantir le Hezbollah au Liban. Puis Netanyahou est en campagne électorale. Fait que...
Et Trump et Netanyahou, quand ils se parlent, les deux ont un contexte en politique intérieure qui est diamétralement opposé. C'est-à-dire que Donald Trump, lui, souhaite mettre fin à la guerre. Il y avait un sondage ce matin qui disait 78 % des Américains veulent qu'on mette fin au conflit là. Quand on regarde la cote de popularité du président, elle est au plus bas, donc ça ne va pas bien. Quand on regarde les prévisions pour la Chambre des représentants et même pour le Sénat, ça ne va pas bien dans les sondages. Les Républicains devraient garder le Sénat, mais on ne devrait même pas en parler du Sénat tellement normalement, ça devrait être acquis aux Républicains. Donc, il y a une pression pour mettre fin à ce conflit, même s'ils sont au moins 40 % des Américains à dire « on perd là-dedans ». L'administration Trump n'a pas obtenu assez. Donc, c'est quand même énorme. Il n'y en a qu'une vingtaine de pourcents qui disent « on a gagné contre l'Iran ». Sinon, de l'autre côté, tu l'as bien souligné, c'est une réalité, mais qui est en sens inverse pour Netanyahou, c'est « on se fait avoir ». On a frappé avec les Américains, on a convaincu les Américains de frapper avec nous. C'est une version, en tout cas, ou un narratif qui circule beaucoup. Mais en même temps, surtout si on est en Israël, ben là, on est près de la frontière avec le Liban. Là, nous, on en discute à Québec, mais eux sont prêts. Ils voient le Hezbollah régulièrement. On trouve que le Liban n'en fait pas assez, qu'il pourrait en faire plus. Et le Hezbollah se plaît, même quand on l'a frappé, à se relever et à défier. Donc, en politique intérieure, dans un cycle électoral, Netanyahou, qui a survécu à je ne sais plus combien de crises, peut-il survivre à « j'appuie les Américains et je respecte ce cessez-le-feu du début à la fin » C'est le motif pour lequel je disais, il y a ce que J.D. Vance nous dit, ce que disent les négociateurs, et bien entendu, la réalité sur le terrain ailleurs, dont la réalité en Israël.
Non, en effet, puis quand on regarde ça également froidement, là, les Américains ont dit, on débloque justement des sanctions sur le pétrole iranien, donc l'Iran va pouvoir continuer à s'enrichir de nouveau, va pouvoir se remettre à s'enrichir. On veut débloquer aussi des avoirs iraniens qu'on avait conservés de 300 milliards pour aider à reconstruire le pays. Mais reconstruire le pays en Iran, c'est aussi reconstruire sa force de frappe. Donc, le Hezbollah va continuer à être financé et encore davantage par l'Iran. Alors, les Israéliens gagnent rien.
Et dans le diable est souvent dans les détails, hein? Quand on réfère au fameux rapport là, ou à la fameuse idée que le 300 milliards, s'il est bel et bien débloqué, va servir à la reconstruction de l'Iran. Nous, on pense reconstruction, On pense à la population. Pendant ce temps-là, le régime n'est pas plus sympathique, le régime n'est pas plus brutal. Il y a des gens qui sont morts et d'autres qui sont dans des situations qui équivalent à une crise humanitaire. Nous, on pense à eux pour les 300 milliards.
Ben oui.
C'est pas forcément, tu l'as bien souligné, ce que le régime va faire. Donc, non, encore énormément d'écueils. C'est particulièrement volatile. On est content si ça progresse. Attendons un peu.
Exactement. Crise au niveau de l'Angleterre. Le premier ministre britannique Keir Starmer qui tire sa révérence est arrivé tôt ce matin. Peux-tu nous résumer pourquoi il y avait autant de pression sur le premier ministre depuis plusieurs mois?
Écoute, Keir Starmer, quand il est... Et en passant, pour ceux qui connaissent moins Starmer ou sont moins au courant de la chose internationale, Starmer n'est là que depuis 2024. Et quand il arrive, ce qu'on lui demande, c'est d'effectuer un virage, donc au sein du Labour, un virage plus vers le centre, même vers la droite. Et il va jouer des thèmes qui avaient plu à l'époque, parce qu'il y a un lien avec Donald Trump, qui avait plu au président américain. Il va jouer la question du patriotisme, il va jouer la question de « nous sommes le parti de la loi et l'ordre », et il va jouer beaucoup la carte du contrôle de l'immigration et de mesures plus coercitives, plus incisives pour contrôler l'immigration. Et depuis 2024, sa cote ne cessait de diminuer. On a parlé d'émeutes anti-immigrants dès l'été 2024. Il y en a eu en 2025. Il a eu beau resserrer les contrôles, ce n'était ni au goût de la droite et de la gauche, donc pris entre deux feux, incapable de satisfaire personne. La crise de l'immigration, donc, et certains événements ou des incidents graves liés à des immigrants, donc, va l'handicaper sévèrement. Et au plan politique, ben, il va de défaite en défaite. Les représentants de son parti sont défaits et on attendait un petit peu de lui redonner leur confiance, ce qui n'a pas fonctionné. Et quand Andy Burnham a gagné dans une récente élection partielle, je mettrais un vieux 2 que c'est M. Burnham qui va être le prochain premier ministre.
Oui, exactement.
Retenez que la situation est très volatile. Retenez le thème de l'immigration qui s'invite dans à peu près toutes les campagnes électorales. Il y a eu une élection hier en Colombie, puis le thème justement du trafic de la drogue, de la criminalité, de la violence, de la migration, ça s'est invité jusque-là. On en débat, nous aussi, de l'immigration ici, entre les partis politiques. On a des avenues qui sont différentes, puis on sait qu'on n'en joue pas toujours de manière très correcte. On s'en porte un peu quand on parle d'imagination. C'est très, très émotif. Et dernière chose, et je m'en voudrais de ne pas le souligner, ça fait 10 ans qu'on a voté pour le Brexit. Et dans ces 10 dernières années, ça a été politiquement très instable. Faites le décompte des premiers ministres auxquels on a eu droit, donc en Grande-Bretagne, depuis le Brexit. M. Starmer ne le disait pas haut et fort, mais il sondait un peu le terrain. Est-ce que l'Union européenne, finalement, on ne serait pas tenté d'y revenir? Parce qu'on l'avait quitté, hein, vraiment, appelons ça sur un coup de gueule, c'était un mouvement émotif. Pas certain qu'on propose la question aujourd'hui et que les gens ne sont pas prêts à retourner. Mais ça survient tout ça dans ce vaste contexte.
Merci beaucoup, Luc Laliberté. On va aller rejoindre en ce moment même Roger Ferland parce qu'il y a des développements dans la fusillade à Montréal. Merci pour tes éclaircissements sur la situation États-Unis, Iran, ce qui se passe également en Angleterre.
Faire des chances pour nos concitoyens de Montréal.
Vraiment. Merci, Luc, pour ton temps. C'est super apprécié.
Bye.
Salut. Luc Laliberté, chroniqueur politique et producteur des capsules La Liberté en clair. Mathias, avant qu'on parle avec Roger Ferland, fais-nous un résumé parce que là, ça déboule les informations. Là, maintenant, c'est 2 policiers qui ont été blessés, un citoyen. Résume-nous le tout.
Oui, selon les informations qui sont sorties au cours des dernières minutes, je vous rappelle la chasse à l'homme qui s'était déroulée du côté de Montréal. Un policier qui a perdu la vie en ce moment, de même qu'un des suspects. On soupçonne toutefois qu'il y avait d'autres suspects. On ne sait pas encore le sort qui a été réservé au deuxième suspect ou s'il y en a plus que seulement 2. Au cours des dernières minutes, ce qu'on nous a appris, c'est que l'hypothèse principale est celle du guet-apens. C'est celle privilégiée par la police présentement, que l'objectif des personnes s'arrêtait d'amener directement des policiers pour par la suite ouvrir le feu. Selon les informations qui nous sont révélées par la presse et le Journal de Québec, le suspect qui aurait écrit un manifeste avant justement l'arrivée des policiers. Par la suite, le tireur qui aurait lui-même composé le 911 installé dans une chambre d'hôtel. Le suspect aurait tiré par la suite sur les premiers policiers qui sont arrivés sur place à partir de sa fenêtre. Une arme longue, un trépied et un télescope ont été découverts dans la chambre en question. Ce qu'on nous apprend maintenant, c'est qu'en plus du policier qui a malheureusement perdu la vie, un autre policier et un citoyen seraient également blessés en raison de l'événement.
Roger Ferland est de retour avec nous en ondes, ex-enquêteur au SPVQ. Roger, c'est tellement préoccupant ce qu'on apprend de minute en minute là, sur cette fusillade à Montréal.
Oui, c'est très, extrêmement préoccupant, tu le dis très bien, parce que là, vous, tu, on voit que les informations, du moins, qui, telles qu'elles sont décrites par Mathias, ce qui me semble juste aussi dans les circonstances, ben c'est un trap. Là, c'est une, on a trappé des policiers pour les avoir à quelque part en situation où ils devaient intervenir avec des gens. Et par la suite, après ça, on les pour essayer de les abattre comme des lapins. C'est pour ça que, vois-tu, la règle dans ça, là, ils ont neutralisé une partie, mais est-ce qu'il en reste d'autres? Puis c'est là qu'ils vont devoir enquêter pendant de longues minutes, savoir c'est qui ces gars-là, ils sortent de où, c'est-tu un membre de gang ou c'est un loup solitaire, avec qui ils travaillaient. Là. Il y a beaucoup de travail qui va devoir se faire alentour du profil. Je comprends mieux maintenant pourquoi est-ce que les policiers ont peut-être pas donné tout de suite de communiquer au public, parce que à toutes les fois qu'ils donnaient l'information, ils auraient également informé les personnes, parce que leur intention était claire de faire feu sur des policiers.
En effet. Roger, dans l'histoire au Québec, est-ce qu'on a déjà vécu un guet-apens comme ça envers des policiers? Bon, moi, j'ai 46 ans, j'ai pas mémoire de ça. Toi, qui en connais plus parce que tu as été policier, est-ce que c'est déjà arrivé?
Moi, au Québec, non, j'en ai pas de cas comme ça. On a eu des cas qui ont été, pensons au Nouveau-Brunswick, la très longue poursuite où plusieurs policiers s'étaient fait abattre, mais la personne s'était emparée d'un véhicule de police et s'en était pris à des policiers par après, successivement. Le manque de communication entre les policiers avait amené quelque chose comme ça. Mais une scène du genre, une trappe comme ça, non, j'en ai pas en tête aucune en ce moment, moi, de mon côté. On a entendu des histoires comme ça aux États-Unis, mais jamais au Québec. C'est sûr que la tension, importante tension à Montréal, me préoccupe énormément. J'espère que c'est pas des choses comme ça qui sont liées à ça et des désirs de vengeance, parce que ça n'a vraiment pas sa place dans de pareilles circonstances. Là. Peu importe qui en était en ce moment au niveau des actions policières.
Un témoignage qui vient d'être publié du côté de la presse, c'est un propriétaire du délit 770 qui se trouve dans le secteur, dit avoir vu depuis son balcon plusieurs coups de feu menés par deux hommes en habits militaires qui tiraient et par la suite un policier qui s'est effondré au sol. Donc ça semble concorder avec l'histoire qu'on suit jusqu'à maintenant de potentiellement deux suspects, ce qui en a plus à voir. Un qu'on a la confirmation qui a été abattu et malheureusement pour l'instant un policier qui a perdu la vie. On attend encore pour l'autre policier et le citoyen blessé d'avoir plus de détails.
Roger, le fait qu'un des tireurs aurait écrit un manifeste, nécessairement ça va aider dans l'enquête à savoir quelles sont les motivations?
Oui, ça oriente beaucoup parce que tu viens déjà de partir avec un mobile important, fait que ça peut circonscrire beaucoup plus dans quelle direction tu vas chercher. L'important maintenant est de savoir qui est en contact avec cette personne-là. Est-ce qu'il y a d'autres équipes ou sous-équipes avec lui? Rappelle-toi, quand on a eu de quoi, c'était envers le public que ça n'était pris, mais les événements du Bataclan, ils s'en prennent à une place, il y a des coups de feu tirés ailleurs, il y a des explosions plus ailleurs. C'est le genre de scène que tu veux pas avoir. Puis en ce moment, on voit qu'il y a plus d'un périmètre que les policiers de SPVM bouclent en ce moment puis essayent de circonscrire. Fait que tant qu'ils n'iront pas, en fait, jusqu'à la résidence de ces gens-là, parce qu'il va falloir que tu le vois dans la résidence, là, qu'est-ce qu'ils ont fait avant ou après, là, tu sais, il y a encore beaucoup de périmètres à couvrir et d'actions policières à faire. C'est là que ça demande beaucoup de calme, une bonne communication. Un poste de commandement assez efficace en ce moment pour être capable de tout encadrer ça. Là. C'est pour ça qu'ils vont en donner au public, mais là, j'ai souvent en tête un terme, le besoin de savoir et le droit de savoir. J'aimerais ça tout savoir. Même tantôt, un proche à moi m'a dit, Roger, appelles-tu directement au SPVM? Non, j'irai pas déranger ces gars-là en ce moment parce qu'ils sont déjà dans le jus. Même les gens des com, même s'ils seraient très sympathiques peut-être à me répondre pour donner, c'est pas le temps là. T'sais. Ils ont besoin de toute leur attention pour être capable d'encadrer et que chacun fasse sa tâche en ce moment. Je pense que c'est ça qui est le plus important à faire et avoir en tête. Des pensées pour les familles, des pensées aussi pour les policiers. Regardez, à tous les jours, les gens sont sur la rue, même là, à répondre pour essayer d'offrir une sécurité aux gens, même si des fois on pense que les policiers sont pas toujours là pour nous aider. Ben, excusez-moi, c'est des arbitres sur le terrain qui sont sans arrêt en train d'essayer de gauler du mieux qu'ils peuvent la situation pour le public.
Ah, vraiment, une pensée à tous ces gens-là. Puis le mot d'ordre, on s'en était parlé en plus vendredi, Roger, le mot d'ordre va être bienveillance au sein de la société.
Vraiment.
Puis, c'est ça, c'est en faisant transmettre les valeurs de la paix, de l'harmonie puis du vivre ensemble qu'on va réussir à s'en sortir.
Oui, tu as tout à fait raison. Je pense que c'est des sages paroles, mais il faut passer de la parole aux actes en ce moment.
Okay,
c'est pas le temps de commencer à chercher un coupable, mais il faut trouver des solutions puis être en équilibre là-dedans.
Ça, c'est clair. Roger Ferland, merci beaucoup pour ta participation. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on se reparle demain matin, assurément.
Certainement. Parfait.
Merci, Roger. Merci. Courte pause et on va vous résumer exactement ce qui se passe présentement à Montréal, quartier Côte-des-Neiges, avec cette fusillade où un policier a été abattu. Ça serait un guet-apens de deux tireurs envers le corps policier du SPVM. Alors, on vous rappelle, on est sur le beat à 13h44 de ce qui se passe à Montréal, quartier Côte-des-Neiges, fusillade, plein d'informations qui sortent de minute en minute. Météo, c'est 23 degrés aujourd'hui, 30 % de possibilité d'averse. Il y a un risque d'orage ce soir. Demain, c'est 21 degrés généralement nuageux avec 60 % de possibilité d'averse. Et pour la Saint-Jean, le 24, ça va être de la pluie et 21 degrés. Ah, Mathias, on tente de démêler le tout. Évidemment, on est en direct, on suit les médias qui sont là-bas à Montréal. On parlerait peut-être d'un deuxième policier malheureusement abattu. Un deuxième suspect arrêté. Bref, démêle-nous tout ça parce que c'est assez fou ce qui se passe là-bas.
Selon les informations qui courent, l'hypothèse qui est privilégiée présentement, ce serait celle du guet-apens. Le principal suspect qui a été abattu a écrit un manifeste avant d'ouvrir le feu, selon les informations rapportées pour le Journal de Montréal. Dans la presse, ce qu'on rapportait, c'est que le tireur aurait lui-même composé le 911 installé dans une chambre d'hôtel. Le suspect aurait par la suite tiré sur les premiers policiers arrivés sur place à partir de sa fenêtre. Tout ça à l'aide d'une arme longue, un trépied et un télescope qui ont tous été découverts dans la chambre. D'autres armes ont été trouvées sur le suspect abattu. Ce qu'on a comme information présentement, c'est qu'on semble avoir deux suspects de confirmés dans l'histoire. Un suspect qui a été abattu, ça c'est confirmé. L'autre qui aurait potentiellement été abattu également. On avait aussi l'information comme quoi on avait deux policiers et un civil, un citoyen, de blessés. On a eu la confirmation pour le premier policier comme quoi il serait malheureusement décédé. Mm-hmm. Selon l'information qu'on reçoit au cours des dernières minutes, l'hypothèse serait que l'autre policier aurait également perdu la vie. Pour le citoyen, on n'a pas encore d'informations pour l'instant.
Merci beaucoup, Mathias. On suit ça avec extrêmement d'attention. C'est une tragédie présentement, ce qui se passe à Montréal, cette fusillade qui aurait commencé avec un guet-apens envers les policiers. Ça donne froid dans le dos que ça se passe ici au Québec.
Et le service de police de la ville de Montréal qui devrait faire le point au cours des prochaines minutes. On parle d'environ une quinzaine de minutes vers 14h. Normalement, un point de presse, une conférence de presse devrait avoir lieu de la part du service de police de la ville de Montréal pour en voir un peu plus clair dans toute cette histoire-là. Mais au cours des dernières minutes, du moins, ça semble s'être calmé. Mm-hmm. Va voir si le calme va rester.
On continue de s'informer de la situation. On vous revient avec les développements dans quelques minutes.
$16 des conditions s'appliquent. Détails chez Nissan.
On en jase. Jusqu'à 14h. On en jase.
13h53 minutes, le retour de Gravel qui va suivre à 14h, évidemment. Véro, Audrey et Denis vont continuer d'être sur le beat de cette fusillade, rappelons-le, qui a frappé Montréal et le quartier Côte-des-Neiges. Et là, Mathias, ce qu'on apprenait, c'est qu'on agrandit de plus en plus le périmètre. Donc, on n'est pas certain qu'on a mis la main sur tous les individus.
Le service de police de la ville de Montréal qui doit faire le point à 14h. Par contre, on tient à signaler, l'opération a toujours lieu. pour vous résumer ce qu'on a comme information jusqu'à maintenant, au moins un suspect qui a ouvert le feu depuis l'hôtel Hilton du quartier Côte des Neiges. Selon l'information qu'on a, il y aurait un deuxième suspect également, au moins le premier suspect qui a été abattu pour l'instant. Également des blessés au sein de l'opération, notamment un policier qui a été confirmé comme quoi décédé lors de l'intervention, deux autres personnes qui auraient été blessées, un policier et un citoyen. Selon certaines informations, le deuxième policier serait également décédé. Selon ce qu'on a pour l'instant, du moins, l'intervention du SPVM qui est toujours en cours, je le répète, le public est bien sûr invité à éviter le secteur, puis les personnes qui se trouvent sur place à se confiner. Pour l'instant, l'hypothèse qui est privilégiée, c'est celle du guet-apens, comme quoi les suspects, les tireurs, ont voulu faire venir les policiers sur place volontairement, notamment le suspect qui a été abattu, qui avait écrit « préparer un manifeste avant d'ouvrir le feu ». Dans la presse, on nous rapportait que le tireur lui-même avait composé le 911 pour appeler des policiers et par la suite installé dans une chambre d'hôtel. Il avait ouvert le feu lors de l'arrivée des premiers policiers, ce qui a créé, bien sûr, la mort d'au moins un des deux policiers blessés. On attend toujours la confirmation pour ce qui est du deuxième policier. Je rappelle, le service de police de la ville de Montréal qui devrait faire le point au cours des prochaines minutes à 14h.
C'est clair que le retour de Gravel vous tient informé avec Denis, Véro et Audrey. Normalement, le maire Marchand sera présent également aux alentours de 16h. Merci d'avoir été à l'écoute. On va souhaiter de la paix, de la bienveillance pour les prochaines heures. Mathias, merci pour ton excellent travail pour les nouvelles fraîches concernant la fusillade à Montréal.
Ça fait plaisir. Passez une excellente journée.
On se parle demain midi. Bye bye, guys.